Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Développement dans le dossier de l'ingérence chinoise. Développement de dernière heure aujourd'hui. On n'avait pas nécessairement vu venir, mais il y a maintenant une députée néo-démocrate, une députée du NPD de la région de Vancouver, qui dit avoir été tout récemment informée par les services canadiens de renseignement qu'elle aussi avait été visée par de l'ingérence chinoise, par une certaine forme d'espionnage, la députée Jenny Kwan. Donc, on le sait, qui dans une région, la région de Vancouver, où quand même, communauté chinoise très importante, communauté asiatique très importante. Donc, on avait eu un député conservateur, Michael Chong, mais là, maintenant, on a une députée néo-démocrate. Ça semble être tout récent. Elle a dit qu'elle vient d'être alertée. On a été convoquée par les services de renseignement et on l'a averti qu'elle aussi, elle avait été visée par l'espionnage de la Chine. On rejoint tout de suite l'équipe de 100 % Nouvelles.
Vous êtes le pionnier. Mais ce que je vous disais, puis avec Pierre, on parle avec tous les celluliers du monde. Tous les jeux sont braqués sur le Canada. Évidemment, les gens...
On arrive à LCN. On est à la conférence de presse là, qui se passe à Bécancour, de l'annonce de ce grand projet, 150 millions versés par le gouvernement du Québec, entre autres, pour l'établissement d'une usine de batterie. C'est GM avec le géant sud-coréen POSCO qui avait déjà annoncé s'associer pour faire quelque chose dans la région de Bécancour. Donc là, aujourd'hui, ils ont précisé leurs intentions dans ce qu'on appelle maintenant la vallée de la transition énergétique là, au centre du Québec.
C'est pas un peu chiche par rapport aux 13 millions en Ontario, Volkswagen?
13 milliards.
Écoutez, d'abord, là, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essentiel pour bâtir l'industrie des batteries. Ce qu'on a dit à Volkswagen, d'abord, avant que le gouvernement fédéral paye une scène, il faut d'abord qu'ils bâtissent une usine de 7,5 milliards. Et seulement si, lorsque l'usine sera bâtie, ils auront produit des batteries, ils en auront vendu, nous, on sera là pour faire ce qu'on appelle un support pour la production des batteries. Et ça, c'est le sujet qui est encore le fameux IRA aux États-Unis. Donc, on est loin d'avoir déboursé quoi que ce soit. Ce qu'on dit, c'est que si jamais, quand il y aura la production de batteries, on sera là au rendez-vous. Puis on l'a dit depuis le début qu'on sera compétitif avec les Américains là-dessus, de façon sélective.
Mais soyons clairs, M. Cloutier, j'ai très bien vu ce qui s'est passé en Ontario. Puis on aimerait ça avoir un cellulier puis être traité équitablement.
On va passer à une prochaine question, oui. Je vais juste essayer de faire de la place.
Bonjour, j'ai une question par rapport à l'usine. Est-ce que les matériaux de cathode vont être uniquement pour les véhicules de GM ou ça pourrait être pour d'autres véhicules, par exemple les autobus scolaires?
Je vais essayer de répondre à Marissa, mais c'est pour GM. C'est une joint venture entre POSCO et GM pour l'approvisionnement à l'intérieur de GM. The question was asked, would you sell your cathode elsewhere? I said, probably not.
Our plan is to use the full capacity for our GM products.
OK, parfait. Puis pour M. Champagne, j'aurais une question par rapport à l'investissement d'Ottawa. Ça prend quelle forme? Est-ce que c'est un prêt pardonnable comme à Québec?
Il est en train de voter. Là,
vous voyez, c'est la démocratie en action. J'étais en train de voter pour un vote en chambre. Effectivement, comme le premier ministre le disait, puis le ministre Fitzgibbon l'a évoqué, effectivement, il y a une partie pardonnable, il y a une partie remboursable et non remboursable. On fait toujours ça de façon similaire avec le gouvernement du Québec. Vous savez, c'est pour ça qu'on est des grands partenaires d'attirer ces projets-là chez nous au Québec.
Et donc, il y en a combien qui est pardonnable du côté fédéral?
C'est 50 % sur le 147 millions qui est pardonnable, 50 % qui est conditionnellement repayable. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous à Ottawa.
Parfait, merci.
Prochaine question?
Amélie Desmarais, Radio-Canada.
Ah voilà, donc vous avez entendu là, quelques-unes des réponses. GM POSCO, donc c'est une étape importante dans le développement de ce qu'on appelle la vallée de la transition énergétique. Je trouve que le nom est un peu gros, surtout une région, un grand parc industriel à Bécancour où on veut développer des batteries électriques. Le Québec qui veut avoir sa part dans tout le développement de l'auto électrique. Alors, vous avez entendu une discussion là dans la période de questions, peut-être un des moments les plus intéressants. Parce qu'on demande à François-Philippe Champagne, oui, mais là, le fédéral, vous déboursez 150 millions aujourd'hui pour cette usine-là. Comment ça se compare avec 13 milliards? 13 milliards. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Là. C'est ce qui a été versé pour l'usine de Volkswagen en Ontario. Et la défense du gouvernement canadien là-dedans, c'est que c'est pas la même affaire. L'usine de Volkswagen, c'est immense. Il faut d'abord que Volkswagen construise son usine pour qu'on les aide après. Donc, lui a une explication, mais vous avez quand même entendu François Legault qui a pas pu résister à la tentation. Et qui a quand même rajouté, une fois la réponse finie, ouais, mais nous, le Québec, on a vu passer l'aide à l'Ontario et on espère peut-être avoir ce genre d'usine qu'on appelle un cellulier, là, des usines de cellules de batterie, et on rêve d'avoir le même traitement équitable qu'a eu l'Ontario. Donc, ça reste, là, il y a une compétition Québec-Ontario pour le développement de cette industrie. Donc, aujourd'hui, c'est une étape quand même majeure pour Bécancour. Remarquez que il y avait déjà eu, là, il y a un an et demi, deux ans, une annonce que GM et POSCO s'associaient. POSCO, on connaît moins ça. Là, c'est un spécialiste géant des batteries en Corée du Sud. Donc, l'association était déjà faite. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus concret. Les montants d'argent, les nombres d'emplois, l'usine, etc. Et donc, la question est venue aussi, est-ce que cette usine va servir à produire, pourrait servir à produire des batteries qui seraient vendues à d'autres, des cathodes, qui seraient vendues à d'autres fabricants? La réponse est non. C'est entièrement pour GM. Je comprends que c'est des modèles comme le Silverado électrique, évidemment. Même la Cadillac, qui est électrique, le Hummer électrique. Donc, c'est le genre de véhicule auquel serviront ces nouvelles batteries.
Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
Alors, on est de retour. Marianne qui était avec moi. Bonjour, Marianne.
Allô, Mario.
Alors, on se parle de cette fusillade qui avait lieu dans une pizzeria, sur la rive sud, à Brossard, et où on n'avait jamais réussi à arrêter l'individu. Il est parti soudainement. Et donc, là, maintenant, on comprend qu'on avait affaire à un professionnel dont les opérations étaient très hautement planifiées.
Mais ouais, exactement. C'est une. On peut dire, Mario, que c'est une scène un peu qui s'est passée là dans un film. En fait, c'est l'assassin là qui est entré à l'intérieur d'une pizzeria, oui, sur la rive sud de Montréal, la pizzeria Sophia, comme tu disais, à Brossard, dans le quartier.
En pleine soirée,
10-30.
Genre à 8h30, 9h le soir au 10h30, ouais. Là, dans un restaurant plein de monde.
Exactement. Il devait avoir peut-être plus d'une trentaine de personnes là, qui mangeaient.
À cette table-là.
Oui.
Peut-être 200-300.
C'était
un immense restaurant. C'était plein, plein, plein. Puis c'est un restaurant que je connais. Genre, j'étais allé célébrer la fête de quelqu'un 3 semaines avant. Là.
J'ai moi-même célébré mon anniversaire cette pizzeria-là. Donc, ouais, exactement. Puis c'est un homme qui est entré, qui était cagoulé, qui a marché d'un pas sûr, là. Il tenait dans ses mains aussi un sac en plastique vert. Il est entré. Tout le monde mangeait son repas. Il y avait les employés aussi également qui étaient présents. Puis sans aucune hésitation, là, l'homme a brandi son arme. Il a dissimulé qu'il avait dissimulé dans le sac dont je te parlais tout à l'heure et qui a tiré vraiment à bout portant et qui a fait une victime qui est Éric Francis de Souza, 24 ans. Ça s'est passé le 10 mai 2019. Puis il y a quand même...
Et si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que dans le cadre du procès, on a vraiment tout le descriptif de l'extrême rapidité, efficacité avec laquelle l'opération s'est déroulée.
Ben on parle de 8 secondes top chrono. Là. Ouais, exactement. Pour avoir effectué le meurtre en question, il y a même une vidéo qui a été présentée au jury où on voit l'assassin qui a par la suite été identifié par la police comme étant l'accusé de 29 ans qui prenait aussi la fuite sous le regard vraiment paniqué là, de tous les gens dans le restaurant. Il y en a même qui se sont réfugiés sous les tables. Tu viens entendre quand même un coup de fusil, tu sais pas comment réagir. Il y a des personnes qui ont tombé de leur chaise parce qu'ils ont fait un mouvement de recul. Il y en a d'autres qui sont partis en courant. Il y en a d'autres qui ont carrément été figés puis vraiment paralysés là, par la peur de cette scène de film tirée d'un film. Là, 8 secondes top chrono quand même là, pour abattre quelqu'un, là, c'est pas beaucoup. Là.
Non. Et je me souviens que l'individu avait laissé son... avait laissé son arme dans une boîte à fleurs. En fait, il y avait quelques éléments après là, qui ont permis aux policiers de le retracer. Il s'était retrouvé dans un véhicule, quelqu'un l'attendait. Ils ont brûlé le véhicule un peu plus loin.
Ouais.
Mais malgré tout,
une
les policiers.
Ouais,
c'est ça. Malgré tout, les policiers avaient réussi à l'arrêter. Mais donc aujourd'hui, c'est vraiment le descriptif de l'opération. 8 secondes totales à l'intérieur des murs du restaurant qui a permis donc à l'individu de faire cet assassinat. On va se parler tout de suite de Michel Côté, parce que c'est vraiment le sujet du jour. Les hommages autant du monde politique que de collègues, amis qui ont travaillé sur scène avec Michel Côté. De partout, on pleure ce grand comédien québécois.
Oui, exactement. C'est vraiment un monument du milieu artistique qui s'est éteint à l'âge de 72 ans à la suite d'une longue maladie de la moelle osseuse. Un petit récapitulatif, Mario, de son état de santé. On a appris en avril 2022, donc il y a environ un an que l'artiste se soumettait à des traitements contre une maladie de la moelle osseuse. Il n'y avait aucun autre détail vraiment qui a été mentionné. Il a par contre précisé qu'il allait se retirer de la vie publique pour une période indéterminée. C'est ce qui a été annoncé dans un communiqué. Puis c'est seulement en février dernier, donc cette année en 2023, qu'on a appris qu'il avait subi une greffe de la moelle osseuse. Et là, bien évidemment, on voit que son état s'est détérioré là, parce que c'est aujourd'hui qu'on a appris.
Les proches disent essentiellement qu'il a tout essayé. Là, ce que la médecine lui offrait, ce que la médecine proposait comme espoir, il a tout essayé. Mais ça a jamais, on n'a jamais réussi là, à faire arrêter le cancer, malheureusement. Donc,
exactement.
D'où le triste résultat hier soir.
Puis on pouvait quand même aussi le voir là, dans des pièces. Bon, en fait, son nom est associé à plusieurs titres, autant au cinéma, au théâtre, au petit, au grand écran, notamment la pièce Brou, qui a été jouée pendant quand même 38 ans, avec ses complices dont Marcel Gauthier, Marc Messier, qu'on connaît super bien, dans les longs métrages à succès, Cruising Bar, Crazy, Piché entre ciel et terre, de Père en flic, autant le premier que le deuxième. Ça, c'est sans parler de La petite vie et Omerta, La loi du silence. Donc, ce sont quand même des gros titres. Là,
et des gros projets, dont et, plus,
ben oui,
dont,
gros
mais
projets.
Dont plusieurs. Il a fait quand même plusieurs affaires qui ont un caractère unique. D'abord, Brou, je pense avoir entendu que c'est même un record Guinness. Là. Nulle part sur Terre, une pièce a eu autant de représentations avec les mêmes acteurs, etc. Cruising Bar, c'est super drôle. C'est un peu dans l'humour, à la limite de l'humour absurde, l'humour de personnage. Mais c'est quand même lui... Il n'y a pas beaucoup d'équivalents au Québec, le même comédien qui joue tous les personnages, quasiment un film qu'il a fait. Bon, il y avait d'autres comédiens, mais c'est lui qui tenait ni plus ni moins que tous les rôles. Ça portait entièrement sur ses épaules. Pichet en ciel et terre, ça non plus, c'est pas souvent. Bon, déjà, personnifier quelqu'un, jouer un rôle, c'est pas si fréquent, ça arrive de temps en temps, mais dans la grande majorité des cas, on va personnifier un personnage historique, un ancien chef de gouvernement, un personnage militaire, mais de l'ancien temps, donc ils sont décédés. Donc au moment où tu les personnifies, ces gens-là, sont pas là pour le voir, deux, il y a toujours des gens qui peuvent comparer, qui l'ont connu, des gens plus vieux, mais là, tu personnifies quelqu'un, le commandant Pichet, qui est encore dans fleur de l'âge, là, t'sais. Donc tu personnifies quelqu'un qui est là, puis tu prépares son personnage avec lui, donc il a fait plusieurs choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment uniques. Crazy, qui est devenu à sa façon un film unique aussi, qui est passé pour une œuvre de génie, et c'est sûr que Michel Côté avait affaire là-dedans. Donc il a fait beaucoup de choses qui ont un caractère absolument, absolument unique, là.
Oui, puis il a même participé à tous les bye-bye qui ont été diffusés de 1979 à 1986. Les bye-bye, c'est quand même une tradition. Oui. Là, chaque année, on écoute le bye-bye. On a hâte de savoir qui va jouer. Ben, Michel Côté faisait partie de la distribution. Puis il a même ramené plusieurs prix Gémeaux, des prix Génie et Jutra au cours de sa longue et bien évidemment prolifique carrière.
Oui. Et vraiment, tous ceux qui ont travaillé avec lui, il y a comme deux affaires qui ressortent. Un immense professionnalisme. Parce que ça, on l'oublie des fois. On dit, lui, il a du talent. Oui, il a du talent, mais il travaille, il est préparé. Il semble que sur un plateau de tournage, il était l'inspiration de tout le monde. Une machine.
Puis même en entrevue aussi avec des journalistes, quand les personnes qui l'interviewaient s'assoyaient, il y avait une belle conversation. C'était pas juste
toujours
dans le cadre d'une entrevue.
Ah, absolument. Toujours. Puis, L'autre affaire, c'est la simplicité de l'homme, là. La mm-hmm. personne, quelqu'un vraiment, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises, très, très, très gentil, très, très, très disponible, donc vraiment une personne exceptionnelle. À sa famille, à ses proches, Véronique, ses enfants, ses amis, nos plus sincères condoléances.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Il y a eu effervescence, évidemment, depuis quelques décennies dans le domaine des microbrasseries au Québec. Beaucoup, beaucoup de nouveaux produits. En fait, présentement, à peu près toutes les régions du Québec et même les sous-régions et les régions touristiques ont leur microbrasserie qui est à la fois un endroit où on peut aller acheter sur place ou manger dans bien des cas sur place. Mais aussi, ben, c'est disponible dans les dépanneurs, épiceries. On a maintenant des sections. Certaines épiceries même ont été soucieuses de mettre de larges sections pour donner une grande place à des bières québécoises. Ben, il semble que ce soit difficile, que l'engouement diminue un peu. Parallèlement à ça, le nombre de produits, lui, est en augmentation, ce qui fait qu'un certain nombre de microbrasseries en arrachent. On va en discuter tout de suite avec Marie-Ève Mirand, qui est directrice générale de l'Association des microbrasseries du Québec. Bonjour, Mme Mirand.
Bonjour, M. Dumont.
Parlez-nous un peu de ce qui se vit présentement, parce que techniquement, là, on est fin du printemps, premier beau jour. Ça devrait être la période où on a tout l'enthousiasme du monde. Là. On est confiant de voir sortir des produits.
Absolument. Le soleil arrive, les terrasses ouvrent. Ça, au Québec, en tout cas, ça fait partie du sport national de prendre une bière à l'extérieur, puis effectivement, les beaux jours arrivent. Ben, puis, tu sais, en introduction, vous disiez, on a connu une croissance dans la dernière décennie. Puis, tu sais, je tiens à le souligner, là, c'est pas une croissance normale que notre industrie a connue dans la dernière décennie. C'est une croissance, tu sais, vraiment extraordinaire, où on a eu année après année, tu sais, des croissances de 5, 10, 15 jusqu'à 20 %. Donc ça, c'est pas banal dans l'équation. Maintenant, tu sais, s'embrasse encore de la bière, là. On vient de remonter au niveau de 2019 parce qu'évidemment, la pandémie...
Ouais, ça n'a pas aidé.
Non, ça a eu des effets, je dirais, plutôt différents là, pour différentes microbrasseries. Mais cet effet-là, dans le fond, aujourd'hui, on produit autant de bières qu'on en brassait en 2019. Okay. Maintenant, il y a plus de joueurs, par contre. Il y a plus de joueurs. On est rendu à 325, un petit peu plus, 330 microbrasseries.
C'était combien? Avez-vous des chiffres, mettons? C'était combien il y a 5 ans? C'était combien il y a 10 ans? C'était combien il y a 15, 20 ans? À quelle vitesse le nombre de microbrasseries a augmenté?
J'ai ces chiffres-là, puis je voudrais pas vous donner de faux chiffres, là. Mais écoutez, honnêtement, là, il y a à peu près 5 ans, on était genre à 200.
Eh hey boy, c'est que ça augmente là, vite, là.
Ça augmente extrêmement vite. À chaque année, on a du 10, 15, 20, 25 nouvelles microbrasseries.
Et éparpillées dans tout le Québec, là. Hein?
Oui, et c'est ça dont on est très fiers. Hein. Il y en a dans les 17 régions administratives. 30 % sont dans des villes de moins de 10 000 habitants. Fait que l'occupation du territoire, la signature de notre identité au Québec, là, les microbrasseries, on est au cœur de cette démarche-là. Fait que, bref, tout ça pour dire que le contexte économique aussi est pas facile. Hein. On sait que le dollar loisir est moins présent pour plusieurs consommateurs hein, qui ont peut-être un peu moins là, d'argent disponible pour des luxes comme une bière de microbrasserie. Donc, c'est sûr que ça vient impacter d'une part la demande. Puis en même temps, ben de l'autre, les microbrasseries comme entrepreneurs, eux autres aussi sont soumis à de l'inflation. Hein, le coût des matières premières augmente, l'électricité, le carburant, la ressource, la main-d'œuvre. Hein, on est aussi dans un univers de pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'il faut qu'on paye un petit peu plus cher pour s'assurer d'avoir des bonnes ressources qui demeurent en place. Fait que tout ça met beaucoup de pression là, sur ouais. les microbrasseries.
Ça met une pression sur les prix aussi, ce qui fait que des petites microbrasseries qui font un produit, moi, je sais de quoi je parle, là. Je suis un gros acheteur, là. Petites microbrasseries qui font des beaux produits, des bons produits. Mais, tu sais, on s'était habitué. Bon, une bière, tu sais, c'est plus 2$. C'est 4,50, 4,95, 5,5, 5,50. Mais là, de plus en plus, tu te retrouves avec des bières, là, qui sont à 6 et quelque chose, 7, 8. Il y a peut-être un... Je nie pas l'augmentation des coûts de production, mais du côté du consommateur, il y a peut-être un point de rupture où on se dit, ouais, là, ça commence à être off pour une bière.
Absolument. Puis ça fait partie, tu sais, les brasseurs, bon, c'est des passionnés de leurs produits, hein, ils sont super créatifs, ont toutes sortes d'idées pour ravir les palais des consommateurs, mais c'est sûr que, tu sais, l'approvisionnement en houblon, puis les modes des dernières années ont été très, très populaires au niveau des bières très, très houblonnées, fait que c'est sûr que ça vient influencer, puis comme je vous disais, on n'est pas dans une bulle, là. On le sait que les consommateurs ont moins d'argent disponible. Fait que c'est là où ils doivent positionner leurs produits, prendre leurs propres décisions. Mais je reviens là-dessus, les beaux jours arrivent. C'est pas facile pour certaines microbrasseries, mais je vous dirais que pour plusieurs, on en a 75% là, qui se disent optimistes, très optimistes par rapport à l'avenir. Il y a ce côté-là qui doit être vu aussi, là.
Celles qui en arrachent, est-ce qu'il y a un trait commun? Est-ce que ce sont les dernières arrivées sur le marché? Est-ce que ce sont les plus petites? Est-ce que c'est plus en région, en ville? Est-ce qu'il y a des caractéristiques là, qui sont dénotables chez celles qui en arrachent?
Ben, je dirais spontanément que effectivement, c'est sûr que tu sais, on a 51% ou à peu près qui ont moins de 5 ans. Fait que ces microbrasseries-là, c'est sûr qu'ils ont moins de marge de manœuvre, tu sais, bon, c'est sûr, les marges sont plus petites, leurs prêts sont plus élevés, donc, tu sais, ils doivent avoir des contre-coûts au niveau là, de l'augmentation des taux d'intérêt qui sont plus forts. Mais ce qu'on observe, c'est que ceux qui prennent soin de leur milieu, c'est ceux qui sont très, très locaux, qui sont bien enracinés, qui ont amené les gens à se fédérer autour de leurs produits, ces microbrasseries-là tirent leur épingle du jeu quand même très bien, ceux qui soignent leur marque.
Fait que ça peut être avantageux d'une certaine façon d'être en région, d'être celle de à Saint-Anne-des-Monts, même si t'es pas dans une grosse ville, mais dans ton coin de pays, les gens t'encouragent, les gens vont se concentrer sur le produit local, peut-être plus facile que dans une grande ville où là t'es noyé dans un grand nombre de produits.
Absolument. Et encore là, même dans une grande ville, il y a moyen de trouver, tu sais, de venir la brasserie du quartier, de trouver vraiment son ancrage, mais tu sais,
ouais, comme la Hochelag.
Ben, c'en est un exemple, mais tu sais, il y en a vraiment un peu partout à travers le Québec. Exact. Et tu sais, quand on me demande, bon, est-ce que c'est possible de tirer son épingle du jeu, la réponse est définitivement oui. Par contre, si quelqu'un a comme objectif principal la profitabilité, je pense pas que c'est l'industrie où il faut aller. Parce que la façon dont les marges, c'est pas là où il y a de l'argent à faire. Par contre, quelqu'un qui a envie de vivre sa passion, tu sais, qui a envie de faire déguster aux consommateurs là, tu sais, leur savoir-faire, ben il y a de la place, là.
Parce que là, on a parlé des produits qui se concurrencent entre eux parce qu'il y a beaucoup de microbrasseries. Mais qu'est-ce qu'on doit dire de l'arrivée sur le marché quand même d'une flopée d'autres produits là, qui sont, à mon avis, des concurrents? Comme on parlait de l'été tout à l'heure, moi j'ai des jeunes chez nous, puis je vois avec leurs amis toutes les coolers à base d'alcool, là, tout ce qui se fait, puis qui sont des produits québécois pour beaucoup aussi, la base des gins québécois, puis des vodkas québécoises, puis là, eux, avec ça, ils font des drinks pré-mixés en canette. J'ai l'impression que dans les parties, ça, c'est peut-être, à l'époque, là, ça aurait été des canettes de bière là, qui auraient été amenées dans le party. Puis là, aujourd'hui, on arrive avec cette variété de produits. Est-ce que c'est une concurrence que vous ressentez, ça aussi?
Certainement. Les produits de substitution, là, puis on les appelle les prêts à boire, puis là, il y en a différents, là, des prêts à boire, mais c'est sûr que, tu sais, quand on regarde le dollar loisir, là, ben, on choisit de le mettre dans une bière de microbrasserie, dans un vin, dans un prêt à boire, dans du cannabis, tu sais, c'est toutes des options qui sont légalement possibles, là. Fait que c'est sûr que ça vient influencer. Le défi des microbrasseries, c'est de se renouveler, de rester à la page de ce qui se fait, de proposer des innovations là pour que les gens puissent continuer de découvrir puis c'est ça là d'avoir des différentes saveurs. Mais effectivement, ces produits-là, on a vu leur popularité croître dans les 3-4 dernières années, peut-être. Ouais. C'est sûr que c'est un élément dans l'équation.
Un autre changement dans le marché. La bataille pour la place sur les tablettes, là, ça, c'est toujours quelque chose quand on est dans l'alimentation, dans des produits comme les vôtres. Il faut, c'est pour être vendu, il faut être sur les tablettes. Bon, je connais, il y en a au moins un que je connais à Montréal. J'en connais un à l'Ange Gardien, là, en descendant vers les cantons de l'Est. Des maniaques, là, des gens des dépanneurs ou des épiceries qui se font une fierté d'avoir, ils prétendent tous avoir la plus grande collection de bières québécoises, là. T'sais, mais des îles de la Madeleine à l'Abitibi, t'es à toutes ou à peu près. Sauf que dans les épiceries, dans les grands supermarchés, c'est pas tout à fait ça, là. Ils ont un certain nombre de tablettes. De plus en plus, ce que je vois, c'est quand ils rénovent leurs épiceries, là, ils se font un beau coin bière québécoise, mais il n'y a pas de place pour toutes. Comment on se bat là, pour avoir sa petite place, pour en vendre quelques-unes, puis tout le monde veut avoir les canettes les plus colorées, puis les plus design, puis les plus artistiques, mais comment on se bat pour avoir sa petite place dans ces tablettes-là?
Le consommateur est prêt avec un beau choix quand même, hey, hein, parce qu'il y a vraiment une panoplie d'options possibles. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est que les produits locaux, tu sais, vont avoir la cote dans la région.
Où, okay.
Exactement. Fait que, tu sais, les détaillants sont très sensibles à ça, fait qu'ils vont offrir un rayonnement. Puis je dirais que naturellement, les consommateurs, c'est ça qu'ils veulent. Si on s'en va en Gaspésie, là, ben on veut boire de la bière de la Gaspésie. Si on s'en va dans le canton de l'Est, même affaire. Fait que les détaillants, tu sais, sont quand même très, très sensibles à ça et offrent de l'espace de cette manière-là. Après ça, il y a les microbrasseries qui sont un peu plus grandes, qui eux autres ont un rayonnement qui est plus provincial. Ceux-là, effectivement, là, je vous dirais que ça joue du coude davantage pour démontrer leur pertinence. Tu sais, une micro de la Mauricie qui se ramasse dans la Naudière. Ben, tu sais, peut-être qu'il faut qu'elle fasse
mais sa part. Mais ça, ils sont quoi? Ils sont 8-10 au Québec de ce calibre-là, là, les brasseurs du monde à Saint-Hyacinthe. Ils sont quelques-uns, mais c'est pas tant que ça là, qui distribue vraiment très largement au Québec, qui peuvent jouer du coude.
Je vous dirais qu'il y en a quand même pas mal.
Plus que ça, oui.
Moi, j'en nommerais facilement une 40-50.
OK, vous me mettez à jour, là, quand même.
Ben, en fait, tu sais, c'est parce que souvent, ben, c'est ça, leur rayonnement va être peut-être pas dans chaque établissement, mais tu sais, qui vont couvrir à peu près toutes les régions, là. Il y en a de plus en plus, ouais.
Ouais. Ben, on va souhaiter bonne chance à toute l'industrie. Oui. Bon été et merci d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Francis Gosselin, économiste.
Tout ça, ils l'ont échappé.
Consultant.
C'est quand même pas une petite affaire.
Auteur.
C'est moins politiquement populaire.
Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
Bonjour Francis.
Salut Mario.
Alors les fonctionnaires américains arrêteront pas d'être payés.
Apparemment non. Effectivement une entente survenue là, on avait évoqué la date du 1er juin hein, Mario qui était
une date critique. Ouais. Mais les experts disaient que ça serait plus qu'on manquerait vraiment d'argent, ça aurait été plus le 4-5-6.
Ouais, mais ce qui est drôle Mario là, puis j'ai quand même beaucoup lu sur ce sujet-là, c'est quasiment tu sais l'État américain là, on parle de 6-7 trillions de dollars de budget et c'est un peu géré comme ton compte chèque. Là, c'est-à-dire, selon
les entrées, les sorties.
Oui, de comme le monde, est-ce qu'ils payent leur impôt le 29 juin ou le 1er juin? Puis là, selon la date à laquelle le chèque est reçu, il va y avoir de l'argent dans le compte ou pas. Là, c'était quasiment rendu là. Donc, effectivement.
Puis il y a un plafond de la dette. C'est-à-dire que ça, c'est fixé par loi. Et ça, tu peux pas emprunter plus que ça.
Exactement. Et donc là, ça fait donc des semaines là, que cette saga-là dure. Ce qui est très intéressant avec la politique américaine, c'est que c'est une histoire qui se répète encore et encore.
Ouais,
et
le
encore,
plafond de la dette, c'est quoi, une fois par décennie à peu près, c'est en gros moins que ça, une fois par 6-7 ans?
La dernière fois, c'était il y a 3-4 ans. Là,
ah ouais, c'est ça.
Ce qui était intéressant la dernière fois, c'est qu'on avait rehaussé ce plafond-là d'un montant discret, donc 1,5 trillion de dollars, là, c'est 1500 milliards de dollars.
C'est la dette du Canada, maintenant.
Et donc, d'un coup, on avait donc rehaussé ce plafond-là. Cette fois-ci, donc finalement, là, après des semaines et des semaines de tractations entre démocrates et républicains, il y a comme une entente assez étrange qui est survenue entre les partis. Essentiellement, on a décidé de donner un peu carte blanche, en fait, là, au fisc américain. Donc, il peut emprunter plus. Et donc, on dit pas, on ne fixe pas de nouveaux plafonds. Donc, on suspend le plafond temporairement pour à peu près 2 ans. Et entre-temps, bien évidemment, M. Biden a dû faire quelques concessions là, sur quelques dépenses. Mais grosso modo, on parle d'à peu près 100 milliards de dollars par année, Mario, ce qui, sur un budget de 6,7 trillions de dollars, est à peu près 1% du budget. Donc, moi, si tu veux mon avis là, de loin...
Joe Biden Biden n'a pas fait tant de gros compromis.
Je ne suis pas un analyste politique, là, mais ça semble être quand même un assez bon deal pour M. Biden qui évite là, la fermeture complète là, de plusieurs pans des services publics américains.
Et en échange, une mince victoire pour les républicains là, qui vont pouvoir dire ouais, là, on l'a forcé à réduire certaines dépenses, mais à la marge.
Tout ça est un show de boucan.
De politique pure. Ouais.
De politique pure. Donc, ultimement, en termes de vraiment de dollars, donc sur la dimension économique, là, on parle de diminution là, dans certains budgets là, qu'on appelle le discrétionnaire, là, donc le service forestier, des choses comme ça. Le budget militaire, lui, continue d'augmenter tel que prévu. Et puis, il y a même, certes, comme c'est le New York Times là, qui rapporte, Mario, il y a certaines ententes où on convient entre républicains et démocrates d'une diminution des dépenses, mais il y a comme un side deal, il y a comme une autre entente qui va venir re-augmenter ce montant-là, de sorte que c'est pas une vraie diminution. Donc,
pas de gros impact, toi.
Comme je te dis, c'est un show plus politique que budgétaire.
Sauf que ça créait de la nervosité. La semaine passée, par exemple, les marchés américains, là, les marchés financiers, ça n'a pas été très bon, la bourse, puis on disait que c'était entre autres, ça a été bon dans les technologies, l'intelligence artificielle, oui. Ça c'est la folie, mais dans tout le secteur financier, les secteurs plus conservateurs, on disait là, il y a une nervosité parce qu'il n'y a pas d'entente sur le rehaussement du plafond de la dette, puis ça pourrait...
Ouais, ben, l'enjeu, Mario, c'est qu'il y a plusieurs... c'était pas clair justement où on allait couper d'abord, là. Il y a comme une certaine logique à tout ça, là. On ne va pas couper dans les Internal Revenue Service, là, l'équivalent du fisc américain, mais à savoir où est-ce qu'on va décider d'arrêter ça, de payer les gens, où est-ce qu'on va arrêter de la dépense. Là, c'était...
Mais j'ai même vu des experts qui disaient, si, mettons, tu relèves pas du tout le plafond de la dette, là, tu pourrais même, les États-Unis pourraient arrêter de payer leur... Non, mais sur les bons du Trésor. Tu sais, sur les bons du Trésor, t'as ton coupon pour de l'intérêt, là. Mais s'il y a plus d'argent dans le compte, là, ils te payent plus tes intérêts. Toi, t'as mis 25 000 $ pour un bon du Trésor, puis t'as pas tes intérêts dessus à la fin
du 6 mois. J'imagine qu'ils se seraient rattrapés, là, tôt ou tard, Mario. Puis effectivement, là, ce qui est un peu particulier, c'est que l'enjeu, je pense, puis c'est la raison pour laquelle les marchés, puis plusieurs années, c'était nerveux, c'est que ça appelle à l'arbitraire, là. Tu sais, c'est justement, si toi-même, demain, on te coupe ta paye, t'as plus de revenus, ben, qu'est-ce que tu vas arrêter de payer d'abord? Ben, peut-être que tu vas pas payer ton hypothèque ou pas payer ta carte. C'est un peu comme
au
plus fort la poche. Ouais. Là, ouais, celui qui crie plus fort ou c'est ce qui est perçu comme étant le plus important par les décideurs. Et encore une fois, ça appelait à l'arbitraire. Puis là, évidemment, ça rend tout le monde un peu inconfortable de ne pas pouvoir avoir de prévisibilité par rapport à ces dépenses-là. Donc, en tout cas, la situation semble être réglée. Si tu veux, mon avis, les républicains ne s'en sortent pas très fort là, de tout ça. Là, c'est dans le show de boucan. Là, M. Biden va continuer de pouvoir mener la plupart des dossiers qu'il souhaitait mener, puis il y a quelques petits ajustements, comme je disais, à peu près 1% du budget total là, qui est revu à la baisse.
Les feux de forêt aux États-Unis, ça se calme un peu, de telle sorte que certains producteurs de pétrole ont pu retourner au puits.
Aux États-Unis, mais en Alberta.
En Alberta, en Alberta. d'élection aujourd'hui en Alberta.
Un jour d'élection. C'est une bonne nouvelle là, pour les deux candidates, là, mais effectivement, donc les feux ont diminué en intensité. À un moment donné, il y avait 91 feux là, distincts qui se promenaient un peu dans la forêt, les forêts albertaines.
Il y avait plusieurs zones de production pétrolière où on avait arrêté complètement.
Exact, Mario. Puis là, on parle d'une diminution. Là, on est à 67 feux. Je sais pas, honnêtement, je suis pas un grand spécialiste des feux de forêt, mais c'est beaucoup moins. Il y en a 17 qui seraient hors de contrôle, donc incontrôlables. Mais tout ça pour dire que ça s'est un peu éloigné là, des sites d'exploitation principaux. L'Alberta avait arrêté à un moment donné à peu près 200 000 barils par jour, ce qui est quand même une bonne quantité là, de pétrole qui était plus produite. Mais comme ce n'était que clairement que pour quelques jours, ça n'a pas eu d'impact là, majeur sur les marchés. Donc, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que la plupart des opérateurs là, vont revenir, là, remettre dans service là, leurs opérations. Donc, ce 200 000 barils par jour va revenir disponible sur le marché.
Ça va faire le prix à la pompe va s'effondrer.
J'ai essayé toute la journée. Je regardais, puis tu sais, vraiment, c'est différent là, dans les marchés boursiers, là, différents timings. Là, je regardais minute par minute, puis ça n'a pas eu d'impact majeur, là, Mario, là, évidemment. Parce que, comme je l'ai dit, cet arrêt-là était relativement temporaire. T'sais, la plupart des États, les États-Unis, le Canada ont des réserves. Fait que, tu sais, qu'on en pèlte 200 000 de plus ou moins dans les réserves. Tu sais, ça n'a pas d'impact à long terme sur les prix. Donc, on est pour le Brent là, autour de 72-73 $ le baril. Ce qui me fait quand même.
Est-ce qu'on s'attend à des grands mouvements cet été? C'est toujours dur à prévoir le prix de l'essence, mais.
Ben, c'est souvent le distributeur au dernier point là, qui est un peu opportuniste. Là, tu sais, c'est-à-dire quand tout le monde fait la queue là, pour se rendre en Gaspésie ou je sais pas quoi, c'est tentant d'augmenter de quelques cents. Parce que, tu sais, c'est ça. Mais vu le prix des barils, puis sais, c'est des contrats à terme, là, ces prix-là qui sont affichés. Donc, c'est pour livraison dans quelques mois. Il n'y a pas de raison de croire que le...
Mais
le,
depuis
le...
quelques mois, il n'y a pas eu de grand mouvement. Là. Il s'est tenu entre 68-69 puis 78-79. À l'intérieur de plus ou moins 10 $, il s'est tenu là.
Ben, tu te rappelleras qu'à un moment donné, là, le PEP Plus avait décrété une baisse de 1,2 million de barils par jour.
Là, ça avait remonté presque à 80. Ou...
90 quasiment, ah ouais. Là, au bien. Puis il avait décrété un plancher à 80 $ qui a tenu à peu près une semaine. Puis depuis, effectivement, ça a plongé sous la barre des 80. De manière générale, Mario, le pétrole, c'est un peu drôle à dire, mais ça a un effet actuellement déflationniste, hein, par rapport aux prix qui ont été pratiqués l'été dernier, où on était là, quand même dans des prix relativement élevés. Donc, pour ce qui est de la lutte à l'inflation, là, qui est quand même un de mes sujets de prédilection, le pétrole a baissé de prix là, par rapport à notre indice de référence de l'année dernière. Donc, ça va plutôt dans le bon sens pour la plupart des consommateurs, effectivement.
Des chiffres sur les investissements étrangers qu'on a accueillis au Québec.
Ben oui, ça a été une année record l'année dernière. Donc, pour l'année qui s'est clos le 31 mars, Investissement Québec a accompagné 6 milliards de dollars d'investissements étrangers là, sur le sol du Québec. L'année précédente, c'était 4,6 milliards. Donc, on voit que c'est déjà une augmentation là, de presque 40 % par rapport à la période précédente. Puis, si on revient avant la pandémie, là, si on veut comparer des pommes avec des pommes, c'était à peu près 2 milliards. Là. Donc, on a eu 3 fois plus d'investissements direct étranger au Québec. Ceci dit, le PDG d'Investissement Québec a signalé que c'était possiblement un genre de record qu'on n'allait pas continuer à battre. C'est-à-dire, c'était juste comme un peu l'alignement des astres là, qui a fait tout est tombé dans cette année. Donc, il s'attend à ce que ce chiffre-là baisse là, dans les prochaines années. Ce qu'il dit aussi, c'est que c'est agréable d'avoir de l'argent étranger là, pour développer des usines. On en parlait plutôt là, à Bécancourt, etc. Mais ultimement, l'enjeu au Québec actuellement, c'est on manque pas de capital ou on manque pas de projet, on manque de main-d'œuvre. On manque d'énergie, on manque de plein de choses. Et donc, c'est pas logique nécessairement de stimuler énormément plus d'investissements directs étrangers dans la mesure où on n'a pas les travailleurs puis on n'a pas les ressources énergétiques à court terme pour alimenter ces projets-là. Donc, M. Bolduc parle de faire en sorte que les prochaines interventions soient, et je le cite, chirurgicaux. Donc, vraiment qu'on cible des industries prioritaires, qu'on cible des investissements prioritaires et qu'on cherche pas le plus gros dollar possible, mais peut-être le plus gros impact possible. Puis, petite parenthèse, ce serait intéressant d'entendre M. Sebia sur ces sujets-là aussi là, lorsqu'il prendra son poste.
M. Sebia qui devrait être nommé cette semaine, oui, probablement exact. Lors de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi.
Le connaissant, il va attendre quelques jours avant de statuer sur ses grandes orientations stratégiques.
Pas tellement du genre à dire tout ce qui passe par la tête là, sans y avoir réfléchi 8 fois. Là.
C'est ce que je disais à mon couvert, Mario.
Merci, Francis. À demain. Bonne journée.
Vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
L'exercice lui-même,
Mario Dumont,
va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
Gérez donc ça, s'il vous plaît.
Isabelle Maréchal.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure.
La rencontre, Maréchal Dumont.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Mario.
Alors c'est un géant à la fois du théâtre, du cinéma et de notre télé, Michel Côté. Qui s'éteint bien jeune quand même à 72 ans.
72 ans, écoute, c'est tout jeune. On le savait malade depuis un certain temps quand même. Il s'était même retiré de la scène, de l'œil du public, parce qu'il avait ce cancer de la moelle opinière.
Il n'y a pas eu beaucoup de chance depuis. Ce que je comprends, c'est qu'il a tout essayé, ce que la médecine offrait, greffe et autres. Mais sans jamais avoir de véritable répit. Hein.
Exactement. Puis aujourd'hui, je pense que c'est un passage obligé que de lui rendre hommage. Moi, c'est quelqu'un que j'affectionnais particulièrement. J'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois, de nombreuses fois au fil des ans. Et ce qui m'a toujours surprise de Michel Côté, comme de beaucoup de grandes vedettes, de personnalités qu'on a au Québec, c'est sa simplicité, sa disponibilité, son humanité. Évidemment, son humour, c'était quelqu'un de très drôle. Beaucoup de gens ont eu l'occasion de le dire aujourd'hui, de le rappeler. Mais sa simplicité... Écoute, je suis qui, moi, tu sais, dans le fond, là?
Pour... Mmh. Mais
je,
les grands.
Je l'ai, appelé ouais. plus, je l'ai appelé sur des projets. On avait, entre autres, pendant quelques années, on a nourri avec ma boîte de prod, Iprod, on a nourri avec mon équipe l'idée de faire. On voulait faire une série documentaire sur Brou, ce qui fait que pendant des années, on a été en contact quand même assez régulier. Toute l'équipe de Brou, surtout Michel Côté et Marc Messier et moi. Et autant, Marc, même chose, là, je te dirais, Marc Messier, c'est des gars faits dans le même bois, tu comprends? Et Michel Côté était d'une accessibilité, d'une simplicité désarmante. Il était, écoute, j'avais son cellulaire, je l'appelais. « Hey, salut Isabelle! » C'est fou. Comme, alors qu'il y a des gens, tu compares aujourd'hui avec des vedettes instantanées qui tout de suite, souvent en tout cas, se prennent, je généralise un peu, là, on me pardonnera, mais qui prennent vite la grosse tête, en tout cas, qui peuvent. Et c'est ça, moi, que je retiens c'est l'espèce d'humilité qui vient avec le fait d'être un si grand acteur, un interprète, comme disait Sophie Préjean aujourd'hui, l'ex-présidente de l'UDA, qui est comédienne, qui a joué la femme, en fait, du commandant Piché, et qui a joué avec Michel Côté quand il faisait le commandant Piché.
Qui est tout un rôle, quand même. Jouer quelqu'un incroyable. Qui existe vraiment,
oui,
tu sais, pendant que l'autre n'est pas un personnage historique qui est mort il y a 100 ans, là, l'autre est vivant, puis ouais. il est dans la pièce à te briefer sur comment.
Et je me souviens d'avoir interviewé les deux, à la fois le commandant Piché, Robert Piché, et Michel Côté sur ce rôle-là. Et les deux étaient bien. Ils s'impressionnaient mutuellement. C'était très drôle.
Ils sont devenus des amis, d'ailleurs.
Ils sont, ben oui, complètement. Ils se sont fréquentés. Puis Michel voulait, parce que, comme tu le dis, le héros national était vivant. Il voulait bien l'interpréter. Il faisait vraiment ses devoirs. Je pense que beaucoup de gens l'ont rappelé. Tous ceux qui ont travaillé avec lui aujourd'hui l'ont rappelé, que ce soit Luc Dionne, que ce soit d'autres. Puis il y a tellement de rôles. On peut faire la liste de ces rôles marquants, mais prends-les tous. Écoute, c'est...
Mais il y en a plusieurs qui sont pas ordinaires, là. Brou...
Ah non, mais...
Brou, c'est extraordinaire par la durée.
Complètement.
Après ça... Il reste que Cruising Bar, il jouait tous les rôles, il allait dans toutes les directions avec des personnages complètement différents. Après ça, il a joué un vrai personnage, le commandant Piché. Après ça, Crazy, c'est quand même... C'est de l'or en barre, là, dans le cinéma québécois. Là.
Et moi, je l'ai adoré dans Omerta, où il jouait le rôle donc de Pierre Gauthier. Et j'écoutais Luc Dionne qui rappelait que c'était, selon Luc Dionne, c'était le premier rôle où Michel Côté jouait... un gars sans costume. Tu sais, c'est pas comme dans La Petite Vie, c'est pas comme dans Brou, là, il faisait pointu. C'était pas Cruising Bar non plus, dont on a d'ailleurs un extrait.
Pendant la marde!
Ça, c'est le gars gêné.
Ouais, c'est écoute, il aurait pu. Ouais, exactement.
Il dit ça, puis il part à courir.
Avec le concrime dans les cheveux. Puis écoute, c'était ça, Cruising Bar. Allez, moi, je vais aller le revoir juste pour me rappeler toutes ces. Tu sais, on parlait avec André Sylvain, notre rédacteur en chef, des bonnes. Tu sais, il y a des liners dans des films qui deviennent mythiques. Là. Chacun en a un ou deux, là, liners comme ça, de Michel dans certains de ses films. Dans Omerta, c'était joué juste comme ça. Et Luc Dionne disait, là, c'était pour une première fois, c'était juste un... Il jouait une police. Qu'est-ce que tu veux? T'es en police, undercover. Et c'était la première fois où... Enfin, selon Luc Dionne, où il n'y avait pas tous les artifices de la comédie. J'ai entendu plusieurs personnes aujourd'hui parler de lui comme d'un humoriste. Puis ça l'aurait fait bien rire, je pense, parce que c'était pas un humoriste comme...
Non, je pense pas qu'il se voyait comme ça. Il
non,
jouait
pas
des
du
rôles.
Tout. Je me disais, voyons donc, c'est bizarre. Par contre, dans les rôles, drôle, ouais. On dit que t'es humoriste.
Par contre, dans les rôles humoristiques, ceux qui ont travaillé avec
lui
disent...
Mais c'est un acteur comique.
Oui, puis il y avait le sens du punch, tellement. De la formule, de laisser la petite fraction de seconde pour que la personne... Juste que la personne réfléchisse un peu avant d'envoyer la réplique, il l'avait ça, là, le rythme de l'humour. Là.
Complètement. Puis sans cabotinage, ce qui n'est pas évident. Hein, mais c'est un acteur comique aussi, mais qui a joué des grands rôles dramatiques. C'est pour ça que je trouvais que le fait de dire, comme Sophie Préjean l'a dit aujourd'hui, que c'est un grand interprète, je trouve que c'est très juste. Et c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, on va essayer de trouver un acteur ou une actrice qui fit avec le personnage, qui ressemble à un peu, qui a vécu la même chose. C'est comme si tout le monde, faut qu'il incarne. Mais c'est ça. Écoute, moi, j'ai étudié en théâtre. J'ai commencé comme ça. Et je me souviens très bien des leçons d'acteur que j'ai pu avoir, des leçons de jeu. Et tu sais, que ça soit... Tu sais, on peut remonter à Stanislavski, à l'école de l'acteur, l'Actor Studio, tout ça. Mais tu manges une pomme, c'est un exercice fabuleux à faire, d'être complètement dans le geste de manger ta pomme. Ça, c'est l'Actor Studio. Ça peut aller jusqu'à très loin, d'ailleurs. Mais c'est ça, le jeu, c'est que tu peux jouer n'importe qui, n'importe quoi. Tu peux jouer la pomme, si tu veux. Tu peux être une vraiment bonne pomme. Tu peux jouer une porte. Tu peux jouer... Mais j'ai l'impression qu'on a perdu ça et que probablement que Michel Côté est fait partie de cette génération d'acteurs qu'on n'aura peut-être plus et qui génère aussi, et c'est drôle, et qui génère aussi des réactions. Tu vois, écoute, c'est un amour national qu'il reçoit aujourd'hui. C'est une grande vague de sympathie qui déferle sur ses proches et j'en profite pour à nouveau leur transmettre mes plus sincères condoléances parce que on les connaît, on les côtoie. Michel Côté, c'est comme, tu sais, on dit Michel, c'est comme, même, nous, on l'a côtoyé, mais même un téléspectateur qui l'a vu dans ses multiples rôles va dire « Hey, Michel! » Parce que c'est quelqu'un d'hyper accessible, il fait partie de notre culture populaire. Et on pourra dire ça de combien de personnalités maintenant? Je suis pas sûre. T'sais, tu deviens vite, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de vedettes instantanées, mais tu sais, je pense pas qu'on laisse notre marque. Toi, oui, parce que tu as été en politique, mais t'es... mais combien vont avoir la chance de laisser cette marque-là indélébile dans le cœur des gens, de devenir, tu sais, vraiment une icône populaire pour cet héritage de bonté, de justesse, pas que dans le jeu, mais dans la vie. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de... Moi, j'étais pas une amie non plus, là, mais j'entends beaucoup de ses amis comédiennes, cette famille du jeu qui témoigne aujourd'hui, puis qui dit que un plateau où il y avait Michel Côté, c'était sûr d'avoir du plaisir, t'avais du fun, il aimait pas la chicane, puis c'est fabuleux, c'est magnifique d'avoir travaillé avec lui. J'envie beaucoup ceux qui ont eu l'occasion de le faire et moi je suis très heureuse d'avoir eu mes petits moments avec lui, mais je trouve ça dommage qu'il nous quitte et je trouve ça dommage aussi qu'on n'ait pas pu faire notre projet.
Ben ouais.
C'était une méchante de bonne idée, m'a dit.
C'était une bonne idée, pour vrai, un documentaire sur
Brou. Une série documentaire sur Brou, ça aurait été fabuleux.
Ça arrive à un moment où justement, en fin de semaine, il y avait tout ce questionnement sur des personnalités connues.
Oui.
Puis là, on parle même pas de personnalités qui sont toujours naturellement dans la controverse ou qui cherchent la controverse, mais qui se font harceler, écœurer. Et malheureusement, c'est beaucoup des femmes, hein?
Beaucoup de femmes, beaucoup de...
Moi, ça m'a frappé quand même.
Effectivement, beaucoup de femmes, c'est sûr. Puis, tu sais, je pourrais te parler, je pourrais faire juste une chronique... juste en mettant bout à bout toutes les insultes que j'ai pu recevoir. Tu sais, quand tu fais de la radio au quotidien pendant des années, que tu donnes ton opinion, que tu interviews des gens, que tu es dans l'œil du public, que tu as des réseaux sociaux, puis on nous incite beaucoup à nourrir nos réseaux sociaux aussi. Fait que c'est comme si, finalement, on était un peu piégés par ces GAFAM dont on a beaucoup fait la publicité. Tu sais, aujourd'hui, on trouve que ce sont des grandes entreprises, des empires économiques, comme dirait Bruno Patineau. Je sais pas si tu connais, c'est le directeur éditorial d'Arte France qui a écrit beaucoup sur l'ère numérique, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un que j'ai adoré, qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge », où il dit que finalement, on est tous devenus comme des poissons rouges coincés dans notre bocal et qu'au lieu d'être occupé par des choses importantes, je te résume et je paraphrase, ben finalement on est devenu complètement des êtres insipides qui sont complètement addicts, c'est un français fait qu'il dit addict, ouais. Addicts à cette surconcentration sur des choses anodines. Et c'est la génération de l'espèce d'anecdote, tout devient une anecdote. Mais pour en revenir effectivement à ce dossier là, du journal en fin de semaine, je veux dire, là, le journal a interviewé beaucoup de vedettes qui disent qu'elles en ont vraiment assez parce que toute cette hargne sur les réseaux sociaux les empêche de dormir. Il y en a qui ont pris des moyens.
Mais c'est à partir autour de Guylaine Tremblay. Là,
Beaucoup l'année dernière avec Guylaine, mais je veux dire, t'en as plusieurs là, qui ont. Tu sais, même Sophie Durocher ici, là, qui a fait porter plainte et tout, qui en reçoit allègrement, semble-t-il. Moi, j'en reçois moins, tu vois. Je suis juste une petite chroniqueuse maintenant.
Moi, je les regarde plus.
Ben, c'est ça. Tu vois, comme je voyais Sarah-Jeanne Labrosse ou d'autres comme ça dire, moi, je vais plus sur Facebook. Il y en a beaucoup. Moi, je t'avoue que faut que je me force, tu sais. Faut qu'on me rappelle qu'il faut que j'aille poster. Ou quand je le sens vraiment. Comme aujourd'hui, j'ai fait un post sur Michel Côté parce que je le sentais vraiment. Puis je me suis dit, bon, ben peut-être qu'il y a des gens que ça va intéresser. Puis j'avais envie de rendre hommage public à Michel Côté. Mais sincèrement, je vais te dire que la plupart du temps, tu sais, si j'ai quelque chose à dire, ben j'ai la chance de pouvoir venir te le dire ici tous les jours. C'est magnifique. Mais est-ce qu'on est obligé d'y aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est obligé de nourrir la bête? Moi, j'ai pas envie. Fait que j'ai envie de délaisser ça. En même temps, dans notre métier, c'est
non, mais il faut que tu vois le pourcentage. Non, mais il faut que tu vois le pourcentage, surtout chez les, par exemple, des 35 ans et moins, qui n'ont aucune autre source d'information.
Et c'est pathétique.
Mais c'est-à-dire que c'est aucune autre source. Dans le fond, leur source d'information, c'est TVA, ou c'est La Presse, ou c'est Radio-Canada, ou c'est le Journal de Montréal, mais ils le voient sur leur Facebook.
Oui.
Tu comprends? Mais ils vont jamais, jamais une fois aller eux-mêmes dire, gars, je vais ouvrir l'application de ce média, puis je vais aller voir les nouvelles.
Ou ils vont aller voir, ils vont, tu sais, comme... Il y a une théorie, il y a des gens qui ont aussi dit, qui ont analysé la façon dont les gens lisaient le journal, puis ils se rendaient compte finalement que les gens lisent les grands titres, mais ils lisent pas l'article au complet.
C'est déjà mieux que papa
d'autres. Mais c'est déjà mieux que rien. Mais tu sais, il faut aussi se rappeler qu'il y a comme 25 % des gens apparemment au Québec qui sont des analphabètes fonctionnels. C'est quand même beaucoup. Apparemment qu'il y aurait un 10 à 15% qui sont même pas capables de lire plus que la deuxième phrase du premier paragraphe d'un article. Et c'est difficile. T'sais. On demande à nos immigrants d'avoir un degré 7. Là, et pas là,
oui, en français.
Mais tout ça pour dire que quand je regardais tout ça, je me disais... Puis là, je voyais même aujourd'hui le pauvre Gilles Briand, météorologue, qui se fait haranguer par les complotistes qui l'envoient sur les roses. Écoute, qui lui disent, Briand, t'es un clown climatique. On gèle depuis 7 mois. On peut-tu avoir un été à 30 degrés sans tes commentaires alarmistes de cave? Veux-tu me dire, franchement, pourquoi écrire ça? Moi, je me dis, tu sais, moi, là, j'en suis venu à dire, non, mais ces gens-là.
Mettons, moi, là.
Écrirais-tu ça?
Moi, mais non, je veux dire, mais moi, mettons que je publiais aujourd'hui sur Michel Côté, là.
Ouais.
OK, je vais avoir, mettons, 100 commentaires.
Ouais.
Il va en avoir 2 sur le vaccin. Pas 92! Il va en avoir 2 sur le vaccin.
Oui, parce qu'il y en a qui vont profiter.
Je publie sur les prix de l'épicerie.
Ah oui, puis ton fameux article était très bon d'ailleurs.
Non, mais je dis,
t'as reçu des commentaires sur
sur le vaccin.
Encore? Il y a encore du monde qui...
Non, mais puis là, t'ouvres leur page, t'ouvres ces personnalités-là, tu te rends compte, mettons, dans le dernier 30 jours, là, donc mettons, durant le mois de mai, là.
Ouais.
Là, on est rendu en mai 2023, et puis personne de normal qui parle de ça, du vaccin.
Non.
Puis eux, ils ont fait 200 publications, toutes sur le vaccin. Les dangers du vaccin, puis les gens vaccinés. Puis là, tu te dis, mais c'était épouvantable.
Mais il faut les ignorer.
Non, mais c'est pas ça, mais tu dis, eux, dans leur tête, dans leur vie, je pense à leurs proches, les gens, tu sais, qui n'ont pas décroché pantoute, sont encore collés au plafond, comme en 2021.
Complètement.
Puis, tout le reste du monde vit, personne n'était malade, le vaccin, tout a bien été, tout est correct, les femmes sont pas stériles, tout ce qu'ils ont prévu n'est pas arrivé. Mais ils se disent encore que ça va. Ils se disent pas, ben là, ben, on s'est trompé. Là, on a eu peur pour rien, puis on va tourner la page. On va passer un autre appel, puis on va aller voir ce qui se passe avec le Canadien, puis avec les Foo Fighters. On va changer de sujet. Non. Fait que t'as vraiment des gens qui vivent dans une agressivité, puis je ramène à notre sujet. T'as des gens qui vivent enragés du matin au soir. Donc là, ils vont écrire à toi, ils vont écrire à Guylaine Tremblay, ils vont écrire à tout le monde.
Ouais.
C'est des insultes.
Oui, mais tu vois, moi, j'en ai eu là, des sérieuses il y a plusieurs années. J'ai vécu ça, là, la police, les plaintes. Là, t'arrives jamais à l'heure. Très rare qu'on les retrouve. Il y en a un là, qui a été retrouvé, Gabarroy. Mais c'est sincèrement, c'est peu commun. Il faut vraiment que le gars soit cave, qu'il laisse des traces, qu'il s'affiche. Mais je sais que moi, dans mon cas...
Mais les policiers s'y intéressent plus. À l'époque,
un peu plus.
Ouais, parce que là, il y a eu des menaces
maintenant.
Aux élus, il y a eu des menaces aux députés, aux premiers ministres, aux maires.
Puis Guillaume Lepage, Véronique Cloutier, quand ces gros noms-là, c'est des grandes vedettes au Québec, quand ça les touche, mais là, la police se sent un peu plus
obligée d'intervenir. Non, mais il y a des escouades un petit peu plus organisées pour aller trouver. Quand ils décident, mettons, même si la personne s'appelle Renard Féroce, ils vont retrouver c'est qui, là?
Ouais, mais
ouais. Ils sont capables. Quand ils trouvent ça important, là.
Ouais.
Ils sont capables.
Ouais, mais
quand ils s'en foutent pas.
Moi, sincèrement, je préfère les ignorer. J'ignore. J'ignore complètement. Moi, je veux pas me mettre dans. Mais tu sais quoi? C'est pour ça que je te dis. C'est important aujourd'hui de se rendre compte qu'on a, bien inconsciemment, on savait pas dans quoi on allait, dans quel panier de crabe on se jetait, mais on paye aujourd'hui pour les derniers 15 ans de aller sur Facebook, aller sur Twitter, publier. On nous a beaucoup poussé à faire ça. On les a beaucoup commandité, ces réseaux sociaux, qui aujourd'hui volent la pub des grands médias sans payer leur dû. Il faut quand même le reconnaître, sans compter qu'ils prennent toute notre attention au détriment de notre cerveau, et c'est de plus en plus documenté. Il y avait un excellent article aujourd'hui dans la presse où on parlait, entre autres, du dommage que ça a sur les jeunes, notamment par rapport aux troubles de déficit de l'attention et autres...
Ouais, ça, c'est sûr qu'on peut y croire. On peut le craindre, on peut y croire. Isabelle, merci beaucoup.
Mais tu sais, c'est pas une croyance. À partir du moment où tu as des spécialistes qui le disent.
C'est visible. Ouais. Merci, à demain.
Ben, merci.
Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode du 29 mai, l'acteur chouchou des Québécois Michel Côté s'éteint à 72 ans. Une sommelière remplie d'excuses pour éviter de payer. À quand des distributrices de crème solaire dans les parcs? Et un entraîneur agressif et colérique chamboule la fin d'une partie de soccer à Longueuil.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Mario.
Bonjour.
On en a parlé pas mal toute la journée. Là, ça a été la grosse nouvelle de l'heure de la journée, autant du côté politique que de la scène culturelle. C'est l'acteur Michel Côté qui s'est éteint à l'âge de 72 ans à la suite d'une longue maladie de la moelle osseuse. On apprenait en avril 2022 que l'artiste se soumettait, entre autres, à des traitements contre une maladie de la moelle osseuse. Il y a pas vraiment d'autres détails qui ont été rajoutés.
Il avait annoncé quand même à ce moment-là qu'il était forcé de se retirer de toutes ses activités professionnelles. On laissait entendre que c'était temporairement, en même temps tout le monde se croisait les doigts, mais il a jamais pu finalement, il a tenté tout ce que la médecine offrait, mais il a jamais pu vraiment reprendre d'activité professionnelle par la suite.
Exactement, parce qu'on parlait d'une période indéterminée, ça a été mentionné dans un communiqué en février dernier, donc en 2023, on apprenait qu'il avait subi une greffe de la moelle osseuse. Comme tu disais, là, c'est vraiment un moyen pour essayer de combattre la maladie. Mais c'est ce matin qu'on a appris le décès. C'est la famille, en fait, de M. Côté qui a annoncé son décès. Bien évidemment, ça a provoqué une tristesse immédiate là, à travers le Québec. Il y a des nombreux témoignages qui ont été publiés sur les médias sociaux, comme je disais tout à l'heure, notamment par soit des politiciens, des acteurs, même au courant de l'émission ici. On a du personnel ici à Cube qui ont travaillé avec lui ou même qui l'ont passé en entrevue. Donc, ça a vraiment chamboulé là, la scène culturelle.
Oui, il y a eu un moment de silence même à la Chambre des communes. Quand je voyais ça, je me disais, ouais, là, tu sépares le Canada anglais là, dans deux. Je sais pas combien des députés du Canada anglais qui respectent la minute de silence, mais qui savent pas du tout à qui on réfère. Ceci dit, c'est un vrai de vrai là, qui a joué. Il a joué des rôles marquants. Il en a joué plusieurs. Il a fait plusieurs projets absolument uniques. D'abord, il a fait partie de Brou, là, puis Brou, c'est quasiment plus gros que tout, dans le sens
Brou, ça a été joué pendant 38 ans.
Oui, c'est ça. Puis sur le plan du théâtre, c'est un record Guinness de nombre de représentations. Fait que juste ça, c'est énorme. Il a joué dans plusieurs films, il a été plusieurs fois récompensé, il a reçu des honneurs. Puis, mais tu sais, il y a toute une série de rôles. Tu sais, que tu penses au commandant Piché, là, tu joues le rôle d'un vrai personnage qui a comme été un héros. Puis là, lui, il est encore vivant, le commandant Piché. D'ailleurs, il a participé à conseiller Michel Côté sur le tournage. c'est spécial jouer quelqu'un de vrai. Là, faut jouer le personnage de quelqu'un qui existe. Qui... Après ça, ben, il a fait Cruising Bar, il l'a fait tout seul. Il a fait plusieurs projets. Bon, Crazy, c'est devenu une pièce d'anthologie. Donc, il y a plusieurs comme ça, rôles ou projets auxquels il a participé qui ont été énormes. Là. T'sais, bon, La Petite Vie, où là aussi, il y avait un personnage assez coloré, merci. Donc, il n'a pas fait grand-chose là, qui est passé inaperçu. Omerta, à son époque, c'était la série numéro 1. Il joue un rôle de premier plan dans la série numéro 1 du moment. T'sais, il a comme fait beaucoup, beaucoup de grosses affaires, de gros projets qui ont créé cet attachement du public.
Ouais, on parle aussi de Poivre et Sel à la télévision, Montréal, Ville ouverte, Les Brillants, du Tac au Tac, puis aussi les Bye Bye, notamment de 1979 à 1986. Comme on se parlait tout à l'heure, là, les Bye Bye, c'est une tradition. Bye Bye,
il y en a eu quelques bons dans cette période-là. Il y en a eu quelques mémorables.
Exactement, surtout avec Michel Côté qui faisait partie de la distribution. Puis je rappelle que M. Côté a ramené notamment plusieurs prix, notamment les prix Gémeaux, Génie et Jutra au cours de sa longue et prolifique carrière. Gros dossier du bureau d'enquête aujourd'hui, c'est une sommelière qui a notamment été connue pour ses fausses dégustations de vin un peu partout au Québec qui multiplierait encore à ce jour plusieurs excuses pour éviter de payer plus d'une vingtaine. On parle ici d'employés, des fournisseurs, des clients qui réclament des milliers de dollars à Madame Catherine Levasseur qui a ouvert, elle a même fermé au moins là, 3 restaurants au cours des 3 dernières années, autant à Brossard que dans le Vieux-Longueuil. Puis chaque fois, là, elle laissait des salaires puis des factures qui étaient non payées, là, des factures impayées. On parle de multiples excuses, un peu comme mon chien a mangé mon devoir là, au secondaire.
Ouais, mais elle semble avoir un côté Houdini, là, parce que je vois la mise à jour de cette nouvelle-là de nos collègues du journal dans les dernières minutes qui disent que même les tribunaux disent...
Oui, ils sont à sa recherche.
Avoir de la misère à la retrouver dans la nature. Là.
Ben oui, exactement. Puis, en fait, ben là, on parle des excuses, là, mais... On disait qu'elle était rentrée à l'hôpital, que sa mère était décédée, qu'elle s'est fait laisser par son chum, était en dépression. Puis ses employés de souvent, ses restaurants ouais. essayaient de la rejoindre. Ils n'étaient pas capables, même encore aujourd'hui, tu le mentionnais,
souvent,
les tribunaux.
Quand ces gens-là font toutes sortes d'affaires comme ça, si tout le monde à qui elle a des relations se parlait, là, s'ils se rencontraient tous, ils se rendraient compte, non, ben, c'est la 8e fois que sa mère a décidé. Il additionnerait ça. Mais moi, ça m'avait dit ça il y a 2. Tu sais, ils ont répété ou ils ont utilisé plus qu'une fois les mêmes excuses. J'en ai connu là, des menteurs compulsifs ou des gens qui fuyaient leurs responsabilités. Puis quand les gens se mettent à parler, c'est là que tout éclate au grand jour. Dans ce cas-ci, le drame de ça, c'est qu'il y a souvent des gens, bon, elle. Je comprends qu'elle a joué son jeu, probablement tout perdre, là, mais potentiellement, t'as des fournisseurs ou t'as d'autres gens qui peuvent se retrouver dans un embarras financier important là, parce qu'ils lui ont fait confiance, parce qu'ils ont fait des affaires avec cette personne-là. Mm-hmm. Et c'est ça qui est triste là-dedans, c'est ça qui est le drame là-dedans. C'est d'autres gens qui perdent leur chemise ou mm-hmm. qui mettent eux leurs propres entreprises en situation de fragilité à cause de ces événements-là.
Ben oui, parce que les sommes que Mme Levasseur doit, je t'en nomme quelques-unes, là, 4 200 $, d'autres 600 $, puis aussi ben un loyer qu'elle devait payer. Elle devait 30 000 $ à quelqu'un chez qui elle louait pour un restaurant. Même que ce restaurant-là a fermé, les employés ont appris la fermeture du restaurant via les réseaux sociaux. C'est tiré par les cheveux, on dirait.
Mais les gens à qui elle doit de l'argent... Je serais pas trop optimiste, là. Je veux pas me faire prophète de malheur, mais je pense que ces gens-là auraient fort raison de s'inquiéter beaucoup de la possibilité. C'est même dans une que j'appellerais une faillite plus régulière, parce que ça arrive, là. Des gens font faillite parce que bon, ils ont eu des malchances financières ou des mauvaises planifications, peu importe, puis bon, ils font faillite. Mais bon, des fois, les gens peuvent avoir une partie de leur argent, mm-hmm. on liquide les actifs, on peut faire des arrangements, puis les gens peuvent avoir une partie de leur argent. Mais je lisais tout ça ce matin, puis je me disais, ouais. Et quels sont ceux qui vont vraiment revoir un sou de ça?
Surtout que c'est pas la première fois que ça arrive, parce que Mme Levasseur, en fait, c'est en 2013 que le journal révélait que la sommelière avait vendu des coupons rabais Twango pour des ateliers qu'elle n'a jamais tenus. Donc, c'est une fois n'est pas coutume.
Il y a un historique, là, ouais. Il y a un historique derrière ça.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
cette fin de semaine, on a eu droit à du beau temps. Vraiment? Le beau soleil qui
on n'a rien
sorti.
Vu, c'est encore plus beau cette semaine.
Ben, c'est ça. Le même.
Mais là, on travaille.
On travaille à l'intérieur, mais on a quand même des belles fenêtres là, qui nous permettent d'avoir la vue sur le soleil. Le soleil qui peut avoir des conséquences sur la peau, sur nous, les humains. On parle ici de cancer de la peau. Puis, il y a un organisme qui a proposé 5 mesures pour justement venir faire une sensibilisation puis venir faire de la prévention pour éviter les cancers, le cancer de la peau qui frappe quand même 30 000 Québécois chaque année et tue 250 patients. Donc, ici, on parle dans les mesures, on parle de distributrices de crèmes solaires gratuites, notamment dans les parcs. Ça fait quand même beaucoup de débats en fin de
semaine. Celle-là a fait sursauter quand même. Bon, puis même, ce qu'ils disent d'enlever les salons de bronzage, d'interdire les salons de bronzage. Bon, je veux bien, parce qu'eux disent le cancer de la peau, mais on autorise la cigarette, là. Fait que, qu'on mette dans les salons de bronzage des avertissements sur les dangers, sur les risques semblables à ceux qu'il y a sur les cigarettes, peut-être. Mais là, si le cancer du poumon est encore pire que le cancer de la peau, puis on n'a pas interdit la cigarette, on l'encadre, on interdit la publicité sur la cigarette, on l'encadre, de multiples avertissements à la santé là, qui sont...
Derrière, juste les bords de cigarettes, là, t'as des témoignages de personnes que ça
ils sont incontournables. Ouais, tu peux pas les voir. Mais on l'a jamais malgré tout interdit la cigarette. Alors, est-ce qu'on va interdire les salons de bronzage? Je sais pas. C'est comme si j'en doute. Pour ce qui est de la crème solaire, ben là, jusqu'aux dernières nouvelles, y a-tu vraiment un problème de gens? On a-tu des témoignages de gens qui disent « Moi, de la crème solaire, j'en mettrais, mais... j'ai pas les moyens de m'en acheter s'il y en avait de gratuite au parc. » Bon, peut-être qu'on me donnera l'exemple de quelqu'un qui va se faire bronzer un petit peu le midi là, en quittant le bureau puis que pas traîner sa crème de bronzage. Mais je sais pas, on dirait que moi, ce que je voyais, c'est qui va aller remplir ça? Combien il y en a qui vont frauder, qui vont s'amener un petit pot, qui vont vider la machine là, pour s'en faire une petite cargaison pour leurs vacances à l'étranger? Combien il y en a qui vont faire du vandalisme, briser ça, péter la bouteille, péter le pied, le support? Je sais pas. J'étais comme sceptique là, sur le fait que c'était la responsabilité des gouvernements de fournir la crème solaire. Puis là, où t'en mets dans les parcs? Combien? Parce que c'est souvent les parcs, c'est grand. Est-ce que t'en mets à toutes les entrées?
Surtout que c'est à l'extérieur, là. Tu sais, c'est pas à l'intérieur dans
c'est
un
ça.
Magasin.
C'est ça. Soumis aux intempéries. Qu'est-ce qui arrive quand il fait trop chaud? Puis quand il fait trop froid? J'avais une multitude de questions qui m'amenaient à dire, je suis pas sûr que c'est le rôle du gouvernement de fournir ça.
Malgré aussi qu'on a quand même été habitués avec la pandémie, là, les distributeurs de purée, de désinfectants.
Plus à l'intérieur. Intérieur qu'à l'extérieur, mais oui. Mais en même temps, le Purel, il n'y a pas vraiment d'incitatif à le voler. Là, je veux dire, il y en avait partout. Là, la crème solaire, je sais pas, mais les gens qui disent ah, moi, je pars dans le sud, je vais en faire une petite bouteille. Là. Je m'inquiète.
On en prend pour les enfants aussi à la maison.
Ouais, je suis parti.
Mais bon, il y avait la distribution de crème solaire. Oui, on parle aussi dans les autres mesures là, pour prévenir le cancer de la peau. On parle de zones d'ombre dans les espaces publics, notamment les parcs, les piscines, les aires de jeu, les interdictions
de salons
de bronzage.
Une zone d'ombre, c'est pas, mettons, un arbre?
Ben ça peut être un... Mais ça dépend encore, là, Mario, comment ton soleil s'aligne.
Ah oui, mais là, je pensais, mettons, que quand il y a des arbres dans les parcs, c'était entre autres ça, mais bon, je pense que je suis pas assez savant. Là.
On parle aussi de vêtements de protection qui sont fournis aux travailleurs extérieurs, comme les sauveteurs et les travailleurs de la construction, puis des programmes de sensibilisation auprès des enfants à l'école. Donc, c'est vraiment à voir, là, mais il y a quand même quelques provinces canadiennes qui ont mis en place des distributrices de crème solaire dans des parcs, dans des piscines extérieures. On voit aussi la même chose dans plusieurs autres villes comme New York, Los Angeles, aussi en Europe, mais au Québec, c'est pas encore implanté dans nos municipalités. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Cette fin de semaine, Mario, il y a eu un match de soccer féminin U16 à Longueuil qui a vraiment dégénéré. On parle ici d'un entraîneur agressif. C'est deux équipes de soccer féminine, dont celle du club de soccer de Longueuil et du club de soccer de Lakeshore. Dans les derniers moments de la rencontre, l'équipe de Lakeshore a marqué sur un corner, là, on parle en jargon de soccer, mais le but a été annulé parce que, selon l'arbitre, ça a été considéré comme un hors-jeu. Puis c'est vraiment à ce moment-là que l'entraîneur de l'équipe adverse, soit l'entraîneur de Lakeshore, il a pété une coche. C'est ce qu'on dit. Il est parti comme une flèche. Il est allé
sur le terrain.
Sur le terrain, il est allé envers le jeune juge de ligne, puis je précise ici jeune parce que souvent,
ce sont des adolescents pour l'essentiel.
Ce sont des adolescents 15,
qui arbitrent.
16, même 14 des fois, on peut voir. Il a fait du poitrine à poitrine avec lui, il a crié dessus. Il semblait tout simplement pas accepter la décision du juge de ligne, vraiment en criant puis en le critiquant, en critiquant son travail. Puis il y a des parents qui ont témoigné puis qui ont dit, ça a quand même influencé le restant de la partie. Après, les joueuses sont devenues un petit peu plus agressives. On voyait qu'ils étaient vraiment pas contentes du déroulement. Ça a vraiment teinté. Là. Puis on parle beaucoup d'agressions verbales, là, autant au soccer, au hockey même. Ça a vraiment fait surface dans les derniers temps. Donc, ça nous force à se poser des questions.
Sauf que là, dans ce cas-ci, la Ligue a décidé de sévir.
Oui, exactement. Ils ont sévi puis ils ont décidé
Mais il n'y avait pas le choix, c'est mon avis. Là.
Ben oui, exactement. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, ils l'ont tout simplement congédié samedi soir après avoir été mis au courant. Puis, il a aussi été sorti de la partie après qu'une jeune de 16 ans, une jeune arbitre de 16 ans,
prononcé l'expulsion d'un entraîneur adulte.
Elle est intervenue entre les deux. Elle l'a expulsé de la rencontre. Puis, par la suite, il est sorti en marmonnant. Puis, là, les hauts gestionnaires ont décidé de tout simplement le retirer de ses fonctions.
On avait eu des exemples avec des parents. Là, dans le cas, c'est des parents. Mais qu'est-ce que tu veux? Les parents vont assister au match. On fait des avertissements. Dans des cas extrêmes, je pense qu'il y a déjà des parents qui ont été expulsés de match ou interdits de présence. Là, mais là, dans ce cas-ci, c'est un entraîneur. À mon avis, ils n'avaient pas d'autre choix que de lui montrer la porte.
Tout savoir en 24 minutes.
Le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, était en conférence de presse ce matin. Il a fait une annonce concernant une équipe d'intervention spécialisée dans la lutte contre le crime organisé, puis aussi la violence armée. Là, on parle beaucoup de violence armée dans les derniers temps. C'est une équipe qui va être composée de 10 policiers de la Sûreté du Québec. Ça va permettre d'appuyer notamment les escouades qui sont déjà existantes. Puis le message qu'on veut envoyer, là, c'est qu'on veut lutter tous ensemble contre le crime organisé puis la violence. Oui, à Montréal, mais ça va quand même venir en aide. Là, l'escouade d'intervention, en fait, va venir porter main forte au corps policier de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de Montréal.
Oui, une petite annonce. Je me suis demandé, on dirait qu'en pareille matière, on dirait qu'on est plus étonné des petites annonces. Tu as le goût de dire, faites des grosses annonces, réunissez tous les moyens, la mairesse, tout le monde, quand tu dis que tu vas t'attaquer au crime organisé. Mais c'est comme une mesure qui est le complément. Il y a déjà une escouade régionale mixte. Là, mm-hmm. C'est comme si c'était une mesure complémentaire qu'on est venu annoncer aujourd'hui.
Oui, puis on se rappelle de la fameuse phrase de Mme Plante.
Pour envoyer un message qui est extrêmement clair. Ce message-là, et toute la population le porte, et je vais le porter pour ceux, peut-être celles qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
C'est non.
Bon, c'est non.
C'est non. Voilà. La mairesse Plante le dit, c'est on dit. A une nouvelle équipe d'intervention. Alors, est-ce que la violence sera...
Il y a 10 policiers de plus vont venir dire c'est non.
Exact. Avec notamment la température chaude, comme je mentionnais tout à l'heure, le soleil, le mercure bien élevé, puis des vents bien présents, bien, la météo de cette semaine va notamment faire en sorte que les conditions favorables pour des feux de forêt est très présente au Québec. La SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu, a même émis une interdiction de faire des feux à ciel ouvert pour l'ensemble de la province. C'est depuis hier, le dimanche, que l'interdiction est en vigueur. Puis ça, c'est quand il y a un risque de grand feu. Donc, on est très inquiet là, du côté de la SOPFEU. Juste dans la journée de dimanche, au total, on recensait 14 nouveaux incendies. Ça a été rapporté par M. Caron, porte-parole de la SOPFEU. Puis jusqu'à récemment, les incendies qui étaient recensés dans la province étaient petits. On parle environ d'un à deux hectares, mais pour ce qui est de dimanche, là, on avait des feux de 50 à 90 hectares. Puis on est dans une situation où les feux sont plus grands, donc ouais, le danger pour la population et les infrastructures.
Ça va juste être un peu pire cette semaine à chaque jour, là, parce que c'est du temps très chaud, très sec, effectivement un peu de vent. Même dans certaines régions, pas mal de vent, fait que tout est réuni, là, tous les facteurs sont réunis, hein, en se croisant les doigts qu'il n'y en ait pas trop proche des zones habitées ou qu'il n'y en ait pas qui ont de trop lourdes conséquences.
Exact. Tout est réuni pour, en fait, un danger qui pourrait venir porter un danger, comme je disais, à la population, aux infrastructures et les habitations aussi qui est de plus en plus grand. C'est pas en fait on a des pompiers là qui ont été déportés en Alberta où il y a quand même beaucoup de feux de forêt.
Ouais, là-bas ça
aussi...
se résorbe là, ça se calme un peu là.
Ouais, exactement. On n'est pas encore rendu à parler de devoir rapatrier les 20 pompiers qui sont à l'extérieur, mais quand même là, le danger est présent.
Économie.
Annonce majeure à Bécancour aujourd'hui, Québec et Ottawa ont confirmé, viennent tout juste de confirmer là, une aide financière conjointe de 300 millions de dollars à General Motors et la sud-coréenne POSCO Future M pour la construction d'une nouvelle usine de 600 millions de dollars à Bécancour pour la production de matériaux de batterie, notamment pour les véhicules électriques là, qui sont produits par GM, dont le Chevrolet Silverado, le GMC Hummer et la Cadillac Lyric.
Mais une excellente nouvelle, en fait, dont on avait déjà eu des échos. C'est que c'était...
Oui, ça va être annoncé il y a plus d'un an environ.
Mais c'était annoncé comme général. La GM puis POSCO s'associent. Puis ils veulent faire quelque chose à Bécancour. On n'avait pas de chiffres, on n'avait pas de données précises d'investissement. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on a eu le concret, là, le projet concret. Une excellente nouvelle, c'est le renforcement de ce pôle de développement de la filière électrique dans le centre du Québec, qu'on appelle maintenant la vallée de la transition énergétique. Là. Mais il y a eu une question qui était très intéressante d'un journaliste sur... Parce que là, le fédéral et Québec mettent chacun 150 millions. Et on a demandé au ministre François-Philippe Champagne, en tant que ministre fédéral, de comparer comment on compare au Québec le 150 millions avec le 13 milliards. C'est comme c'est quasiment 80 fois plus, là, qui a été investi pour l'usine de Volkswagen en Ontario, dans la région de Windsor en Ontario. Et le ministre qui expliquait, bien, c'est pas la même affaire. Volkswagen, on donne pas l'argent tout de suite. Il faut qu'eux construisent leur usine de 7 milliards. Puis là, ben, après ça, on va les aider à posteriori dans la production. C'est sur 10 ans qu'on va verser le 13 milliards. Donc. Mais une fois que lui a eu tout expliqué, les différences entre là, le 150 millions puis le 13 milliards, il y a quand même François Legault qui a tenu, qui a pas laissé passer, qui a tenu à prendre la parole. Et qui a dit, ben moi, là, je peux vous assurer, je l'ai vu passer, la subvention en Ontario, et puis j'ai bien l'intention que le Québec obtienne justice, obtienne des projets de la même envergure. Donc, il y a une pression sur le fédéral pour pas tout donner à l'Ontario, et que, tu sais, autant dans l'industrie automobile, pendant des années, c'était l'Ontario, la nouvelle industrie automobile, l'industrie automobile électrique, que ce soit partagé entre l'Ontario et le Québec, et le Québec est positionné pour en accueillir.
Le démarrage de l'usine est prévu pour 2025, puis il y a quand même 200 emplois qui vont être créés avec cette usine-là.
Oui, c'est appelé à grossir ensuite, là. C'est appelé à prendre l'expansion ensuite.
Oui, parce que en point de presse, le ministre Pierre Fitzgibbon a parlé même d'une nouvelle ère, là, qui, en fait, depuis celle de la construction des grands barrages là, par Hydro-Québec. Économie, aujourd'hui, on parle d'un couple d'entrepreneurs qui ont développé une salsa et des croustilles à partir de légumes amochés. J'aimerais trouver un autre mot pour dire amochés, mais des légumes qui ont eu un petit peu de difficulté. Là, c'est en fait...
Qui ont été maganés dans le transport, mettons.
Oui, exactement. Ou encore des tomates qui ont été faites en surplus et qui sont pas nécessairement de qualité pour notamment être sur le marché. C'est Lisanne Bourret et son conjoint Pierre-Olivier Gendron qui se sont donné comme mission de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire. Les deux ont travaillé dans la restauration auparavant, puis Dieu sait qu'il y en a du gaspillage alimentaire en restauration, puis c'est vraiment ça qui les ont poussés à créer un premier produit, qui est une salsa faite de légumes frais, qui récupère auprès des producteurs et de distributeurs alimentaires. Donc, ça a quand même fait un bon succès, là, leur salsa, puis aussi leur croustille, qui est un nouveau produit qui est vendu dans plus de 400 points de vente, dont 300 épiceries IGA à travers la province. Donc, peut-être ils vont continuer à avoir des produits qui vont venir aider là, pour contrer le gaspillage alimentaire.
On leur souhaite bonne chance.
Le Monde.
La Grèce va retourner aux urnes le 25 juin. Ça va être un petit peu plus d'un mois après des élections législatives que les Grecs vont devoir retourner voter. Je rappelle, le 25 juin. On espère cette fois-ci décrocher une majorité absolue là, de la droite de Kyriakos Mitsotakis. Donc, ce serait pour élire les 300 députés du Parlement monocaméral le 25 juin. Il y a eu un scrutin là, qui a eu lieu le 21 mai qui n'a pas permis aux conservateurs d'obtenir la majorité, mais c'est ce qu'on espère là, pour les prochaines élections.
Pour le prochain tour, mais monocaméral, c'est un mot savant.
Un mot très savant.
Une seule chambre.
Une seule chambre.
Nous, à Ottawa, on a un parlement bicaméral. Alors qu'à Québec, on a un parlement monocaméral depuis 1967 ou 8, depuis qu'on a aboli le Sénat.
Et pour terminer, Mario, ben on a des élections provinciales en Alberta. Aujourd'hui,
ouais, serré,
c'est le jour de
serré,
vote.
Serré, si on se fie au sondage, là.
Ça va permettre de trancher entre les conservateurs et les néo-démocrates, donc entre Daniel Smith et Rachel Notley. On va avoir les résultats un petit peu plus tard. Mais le vote par anticipation, là, quand même, forte participation selon Élections Alberta. Un record de 758 550 électeurs qui ont déjà voté sur un corps électoral de 2,8 millions de personnes.
Deux femmes qui s'affrontent, l'actuelle première ministre Daniel Smith, mais celle qui est la chef du NPD, parce qu'on l'oublie, la très conservatrice à Alberta, a eu un gouvernement NPD pendant 4 ans, après 2015, et Rachel Notley, qui avait été la première ministre, c'est elle qui revient. Donc, c'est la première ministre actuelle contre une ancienne première ministre qui s'affronte dans cette élection. Les derniers sondages, c'est avantage conservateur, mais pas tant que ça. On pourrait avoir une surprise. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre, la traverse, Dumont.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Annonce importante aujourd'hui pour le gouvernement du Québec dans sa stratégie de développement de la filière batterie dans le centre du Québec.
Oui, bien depuis le temps qu'on en parle, ça vient confirmer donc l'investissement et la construction là, d'une usine de ce qu'on appelle GM POSCO, donc qui est un partenariat entre GM et un manufacturier coréen pour faire des cathodes, là, qui est l'élément qui forme 40 % de la valeur d'une batterie, là, dans une batterie au lithium pour faire fonctionner une voiture, là. Donc, c'est important pour plein de raisons. Ça marque le retour de GM au Québec. Ça marque aussi que toute cette idée de faire une filière batterie au Québec, bien, une filière batterie, il faut que ça soit ancré autour de grandes compagnies, là. Alors, quand tu as un géant comme GM qui vient s'installer, puis c'est une grosse usine qu'ils vont construire à terme, le but, c'est que cette usine-là fournisse les éléments pour toutes les batteries de toutes les voitures GM en Amérique du Nord, là. Donc, oui, c'est important. Puis, du côté du gouvernement, on fait un partenariat avec ce qu'on veut créer, on veut profiter de ça pour faire ce qu'on appelle une zone d'innovation, hein? La zone de la vallée de la transition énergétique. Puis l'idée, c'est de créer des partenariats avec des universités, des laboratoires pour que se greffe autour de cette usine-là, du parc industriel de Bécancour, toutes les industries secondaires, mais toute la recherche et l'innovation qui va avec. Mais, puis il y en a des mais, puis je pense ça enlève rien à la valeur de ce que le gouvernement a annoncé aujourd'hui, là, mais des zones d'innovation, généralement, c'est quand même ancré autour d'universités qui ont déjà fait leurs preuves en termes de recherche de pointe dans le domaine X, tu sais. Ça, c'est une zone d'innovation qui est ancrée beaucoup autour de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis là, après ça, il y a des partenariats avec d'autres universités. Fait que l'idée, c'est que pour faire la zone d'innovation dans cette vallée, là, tu sais, dans ce triangle Bécancour, Shawinigan, Trois-Rivières, ben il n'y a pas d'université McGill dans ce coin-là, là, tu sais, fait qu'on a comme été obligé de patenter quelque chose pour que ça marche, puis est-ce que ça va vraiment donner les résultats escomptés? Je pense que il est trop tôt pour dire que ça marchera pas, mais c'est pas la façon traditionnelle garantie, c'est pas le modèle de base, là, si on veut, pour vraiment créer les zones d'innovation qui finissent par faire des poussins, puis des enfants, puis plein d'autres industries autour.
Ouais. C'est venu durant la conférence de presse et c'était prévisible, c'était impossible qu'aucun journaliste pose la question. Elle a été posée à François-Philippe Champagne, la comparaison en termes d'ordre de grandeur là, entre l'aide apportée aujourd'hui par le fédéral, 150 millions, en fait c'était 50-50, là, 150 millions Ottawa, 150 millions au Québec pour aider ce projet-ci. Donc 150 millions qu'Ottawa mettait par rapport aux 13 milliards, là, c'est genre 80 fois plus qui est investi par Ottawa dans ce projet d'usine de batterie électrique de Volkswagen en Ontario. La question au Québec-Ontario, même François Legault a senti le besoin de la relever après, là.
Oui, François Legault qui dit que le Québec travaille fort pour obtenir sa juste part des fonds fédéraux. C'est juste et injuste à la fois, cette comparaison-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les faits, Volkswagen n'allait jamais pouvoir venir s'installer au Québec. OK? Parce que dans les paramètres de ce que Volkswagen voulait, en termes d'espace pour construire son usine et en termes d'approvisionnement électrique, il n'y avait pas le lieu où le faire, où Hydro était capable de les brancher, où il y avait assez d'espace et où il y avait assez de main-d'œuvre. Le seul endroit où on aurait pu peut-être le concevoir, c'est autour de cette île. Pas un manufacturier automobile qui va aller se construire une usine à cette île, là. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça le problème, là. Alors, la réalité, c'est que si Volkswagen avait choisi Québec, c'est Québec qui l'aurait eu, le 13 milliards de Volkswagen. Tu sais, c'est un peu ça la réalité, mais c'est sûr que ça met énormément de pression sur le tandem Champagne-Fitzgibbon, parce que c'est vrai qu'ils travaillent vraiment ensemble, les deux, là, pour en attirer une méga usine. Parce que c'est sûr que c'est super intéressant, le truc de GM, mais on construit l'élément de la batterie. On n'a pas réussi à attirer ce qu'on appelle un cellulier, quelqu'un qui manufacture des batteries. Et la course, elle est là. Et ce qu'on comprend, c'est qu'on est en négociation avec plein d'autres joueurs pour faire venir un méga investissement du genre. Parce qu'aussi, le problème, c'est que ce que Québec fait, ce que Ottawa fait, c'est qu'il match exactement ce que fait le IRA américain. Les Américains, ils ont mis tellement d'argent à sa table qui ont donné les moyens à toutes ces entreprises milliardaires. Tu sais, Volkswagen, Ford, GM, ils n'ont pas besoin d'argent des gouvernements pour construire des usines. Mais les États-Unis ont mis tellement d'argent sur la table qu'ils donnent les moyens à ces entreprises-là, après ça, de faire du chantage avec tout le monde. Puis de dire, OK, vous me donnez quoi pour que je vienne chez vous? Puis là, il y a cette course-là à la grandeur de la planète. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de pression, je pense, en effet, sur M. Fitzgibbon et M. Champagne pour qu'ils fassent atterrir de ces projets-là, de ces méga-projets-là au Québec. Parce qu'en même temps, les États-Unis, ils ont mis 400 milliards sur la table. Ottawa n'a pas 400 milliards à mettre sur la table. Il y a l'équivalent de peut-être 25, 30 au max. Fait que des méga-projets comme Volkswagen, il va en avoir 2, 3 au max au max, Canada qui vont avoir lieu. Donc, je pense que la pression est forte, puis la course est bien enclenchée, mais c'est sûr que si M. Fitzgibbon ne réussit pas à en faire atterrir un méga-projet, il va avoir un problème. Ouais. Puis aussi, la réalité, c'est qu'il va falloir... Il y a aussi une urgence là, pour accoucher d'un plan énergétique, là, parce que on n'était pas capable de fournir Volkswagen en électricité, là.
Non.
C'était ça, la réalité, là.
Non, mais ce qui est quand même un peu comique, c'est qu'en Ontario, ils sont capables d'accueillir Volkswagen pour faire des batteries électriques dans le cadre d'une transition énergétique vers une économie verte.
Avec
une usine au gaz.
Eh oui, même pas au nucléaire, là.
Non, une usine au gaz naturel. Non, c'est ça. Fait que,
mais c'est comme un hold-up, là, tu sais. Je veux dire, ces entreprises-là, là, ils arrivent avec tellement d'argent, tellement de potentiel pour créer des écosystèmes, puis tout le reste, que c'est eux qui dictent les règles du jeu. Puis d'ailleurs, on le voit avec ce qui se passe en Ontario quand même, parce que Stellantis, l'autre grand manufacturier, là, propriétaire de Chrysler, avait signé avec Ottawa pour construire une usine là-bas.
Non, mais là, ils sont frustrés.
Pour 1 milliard de dollars. Puis là, le jour où ils ont vu que Volkswagen a encaissé 13 milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit « Allô, les boys, si nous, on n'a pas l'équivalent, on s'en va. Ouais. » Là, il y a un méga mélodrame qui se déroule en Ontario autour de ça. Alors, c'est très difficile pour les gouvernements, là, en ce moment.
Un mot sur cette annonce ce matin de la ministre de l'Immigration et du ministre responsable de la langue française. On crée officiellement, remarque que c'était légalement, c'était théoriquement créé par l'adoption de la loi 96 il y a un an. Mais là, on officialise la création de l'organisme francisation Québec.
Oui, l'idée, c'est d'avoir un guichet unique, là, tu sais, pour que les immigrants, quand ils débarquent, là, ils savent à quelle porte cogner pour avoir des cours de français. Tu sais, que ça soit pas comme un jeu de serpent à échelle, tu sais, où la maison des fous, t'appelles un organisme, t'appelles l'autre, c'est compliqué, c'est pas organisable. Puis en plus, les cours de français étaient divisés entre le ministère de l'Immigration, le ministère de l'Éducation, il y en avait un beau au ministère du Travail. Tu sais, c'est simplifier ça, là, parce que tout le monde a en tête le rapport de la vérificatrice générale en 2017 qui disait que la francisation était un fiasco parce que c'était trop compliqué, parce que les cours étaient pas bons, parce que... Alors là, on a tout regroupé, on a tout fait un ménage là-dedans. Puis l'idée, c'est que maintenant, les nouveaux arrivants en particulier vont pouvoir avoir accès à des cours qui font leur affaire. Tu sais, prends un travailleur étranger, temporaire, qui, lui, travaille à temps plein, il ne peut pas être libéré pendant 2 mois, 6 mois pour aller prendre des cours de français, mais sa femme, elle peut le faire, par exemple. Puis le travailleur étranger temporaire, mais lui, il peut suivre des cours en ligne, ou mieux que ça. On
non, est en ligne, de... par les soirs, à temps plein ou à temps partiel, il y a vraiment
ou
tous les...
Ou sur le site de son ou auprès de son entreprise, puis on a revu les cours. Donc, c'est vraiment très bien comme projet. Puis c'est sûr qu'on a compris à quoi ça sert. Hein? Parce que là, tout le monde dit, mais pourquoi on franciserait les immigrants quand on veut 100% d'immigration francophone? Mais l'enjeu, c'est que le gouvernement, il veut aussi des immigrants qui sont déjà intégrés. Donc, si tu es capable de franciser les travailleurs étrangers temporaires qui ont des bonnes jobs payantes dans nos entreprises, ben, eux autres, ils apprennent le français pendant qu'ils sont temporaires. Puis là, whoop, ils peuvent devenir des immigrants permanents. Fait que ça fait partie du grand plan. C'est vraiment un beau projet. Mais ça va-tu marcher? Je pense que tout le monde retient son souffle. Mais moi, je suis pas prête à me lancer dans une valse de critiques aujourd'hui. Là, je pense qu'on leur lance assez de peau dans l'année, là, qu'aujourd'hui, ils méritent des petites fleurs.
Non, non. Mais un projet sur papier au gouvernement, il faut rester attentif à sa réalisation pour être sûr.
Le site web fonctionne.
Bon, tu vois, il y a que des bonnes nouvelles.
Ce matin. Puis, on le met en œuvre, ce projet-là, de manière graduelle, hein? Justement pour pas être pris avec ce qui est arrivé à la SAC. Et la ministre a suivi le côté technologique de semaine en semaine.
C'est bien ça. Mais elle dit que je pense que tout va être prêt pour jeudi. À partir de jeudi, les inscriptions seront possibles. Et merci, Emmanuel. Au revoir.
Très bien, au revoir.
Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
Salut Jean-François.
Salut Mario.
Alors, il y a un joueur du Canadien qui a gagné sa petite Coupe Stanley.
Ouais, mais c'est sûr que c'est pas le championnat le plus prestigieux à gagner parce qu'on sait que c'est pas tous les joueurs qui se retrouvent là. On parle de Montembeau, évidemment, avec le championnat
Samuel
mondial.
Montembeau,
le championnat mondial. Mais il a bien fait. Pour lui, c'est toute une carte de visite. Là. Là, c'est quand même
ses chiffres, je voyais ses chiffres aujourd'hui, les gens résumaient là, sa moyenne, 1,50, son pourcentage d'arrêt à 940. C'est des chiffres exceptionnels. Là.
C'est exceptionnel. Il a perdu seulement un match. Tous les autres, il les a gagnés. Il était bon dans chacune des rencontres. Puis, tu sais, Samuel Montembeau gagne 1 million par année présentement. Le Canadien l'a ramassé au balotage. Pendant un bout de temps, il pensait que la Ligue nationale, c'était pas pour lui. Puis là, ben, écoute, il va s'établir dans la Ligue nationale, ça, c'est sûr et certain. Parce que s'il le fait pas avec le Canadien, avec une vitrine mondiale comme il vient d'avoir, il va le faire ailleurs. Ça, c'est sûr.
Fait mais là, que c'est la juste question que je voulais te poser, c'est est-ce que le Canadien va le signer? Est-ce que le Canadien doit le signer là, au cours de l'été?
On n'a pas besoin de le signer, t'as encore sous contrat pour un an.
OK, il reste un an.
Oui, il reste un an à 1 million, Mario. Si jamais il nous donne 50 games, là, c'est une aubaine incroyable. C'est un vol. Il nous a rien coûté 1 million de dollars. C'est sûr que son prochain contrat va être un peu plus cher. Là où j'ai un doute, c'est, je pensais pas qu'il était vieux comme ça. Il y a 26 ans, Samuel Montembeau. Vous allez dire, c'est pas vieux. C'est juste qu'il n'est pas dans notre cycle avec les Suzuki, avec les Dak, avec les Caulfield, etc. Tu sais, quand eux autres vont arriver à 25-26, ça veut dire que Montembeau va être rendu à 30. Fait que je suis pas certain.
Mais 30 pour un gardien... Ça peut. Bon. Il peut être à son prime.
Ah, il peut. Il peut. Mais je prendrais quand même la chance d'en repêcher un autre. D'en avoir un petit jeune qui va pousser en arrière. Reste que pour les prochaines années, Samuel Montembeault peut être une très belle option pour le Canadien de Montréal. Puis au-delà du Canadien, là, pour l'athlète, là, pour le joueur qui s'est fait mettre au ballottage par les Panthers il y a 2 ans de ça, c'est tout un accomplissement d'avoir rebondi comme ça et d'avoir eu une vitrine et du succès sur la scène hockey à l'international.
Parle-moi de tennis.
Ouais, tennis, ça n'a pas bien été pour Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros. Il s'est incliné contre Fognini, un Italien, 6-4, 6-4 et 6-3. En fait, il a expliqué après en conférence de presse qu'il n'a pas dormi de la nuit, il a été malade, que c'était souffrant sur le court aujourd'hui, même que son adversaire a dit, je l'ai vu, qu'à partir du deuxième set, il bougeait juste plus. Il faisait juste retourner ce qu'il était capable de retourner. Fait que c'est pas un abandon, mais c'est tout comme. Et d'ailleurs, Félix a précisé que là, ce qui est important pour lui, c'est de retrouver la santé.
Mais là, il a mal partout. Là. Un genou, une épaule. On dirait que ça va plus.
Mais il a joué beaucoup de tennis l'année passée, hein, Félix, avec le championnat des joueurs. Puis vers la fin, il poussait sur les tournois pour essayer de se classer dans le top 7 pour participer au championnat des joueurs à la fin. Fait que peut-être que ça le rattrape un peu, là. Tu sais, moi, des fois, je les regarde aller, là. Les genoux, les chevilles, le nombre de services qu'ils font. Puis nous autres, on voit juste les matchs, là. On voit pas toutes les pratiques, toutes les balles qui frappent ces athlètes-là. Fait que c'est normal d'avoir des petits bobos, mais je pense pas que c'est ce bobo-là qui lui a empêché de performer aujourd'hui, là. Je sais pas si c'est une indigestion, une grippe ou quoi. Il est pas rentré dans les détails, mais bref. Il filait pas sur le court. Chapovalov, lui, a gagné en 5-7. Il était bien parti. Il a gagné les deux premiers. On s'est dit que ça va être facile, puis finalement, ben, à la Chapovalov, là, il a fait des doubles fautes, des fautes non provoquées, mais il a fini par aller chercher le cinquième set.
La série entre Las Vegas et les Stars de Dallas là, qui prend peut-être une nouvelle tournure. En tout cas, les Stars, c'est comme si les Stars étaient meilleurs sans leur capitaine, là, avec leur capitaine suspendu.
Hey, on les avait enterrés, nous autres, Mario.
Mais là,
on
ça ressemble
on avait
à
dit...
ça.
Que Jamie Benn, son deuxième match de suspension, allait être au début de l'année prochaine. Finalement, les jeunes ont pris ça en main. Robertson a été très, très bon. Oettinger aussi devant le filet des Stars. Et moi, je trouve que là, la pression, c'est Vegas qui l'a. Là. Parce que tu veux pas échapper le match à Dallas ce soir et te retrouver dans un septième match à Vegas en sachant que tu les avais dans les câbles, que tu menais 3-0. Fait que ça va être un intéressant duel ce soir. Puis pendant ce temps-là, les Panthers se reposent. Mais on avait déjà parlé ensemble. Moi, je trouve qu'ils se reposent trop. Là. À un moment donné, la chaîne, le momentum, ils débarquent. Là. Fait que là, ils vont être au moins une semaine sans jouer au hockey, les Panthers de la Floride, en attendant leur adversaire. Mais c'est un bon duel à prévoir ce soir.
Mais en fait, ce soir, on a deux matchs de hockey là, en parallèle. Parce qu'il y a les remparts. Il y a les remparts aussi, hein?
Les remparts à la Coupe Memorial qui affrontent le Thunderbird de Seattle, qui est, selon les experts, la meilleure équipe. Les remparts, avec une victoire ce soir, s'en iraient directement à la finale. Sinon, une défaite, ben, ils vont devoir jouer un match supplémentaire. Ils ne seraient pas éliminés. Mais ça va être intéressant parce que, évidemment, dans l'année, on ne peut pas les comparer. Ils ne jouent jamais contre. Ils ne sont pas dans la même ligue. Fait que ça va être vraiment intéressant de comparer ces deux équipes-là ce soir.
On va surveiller ça. Beaucoup de hockey. Il va falloir zapper. Hey, merci. À demain.
À demain.
Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
Commençons d'abord avec cette filière batterie. Québec qui accorde un prêt de 150 millions de dollars pour la construction d'une usine de production de matériaux de batterie à Bécancour, un projet qui va créer 200 emplois dans la région. Paul, je commence avec toi. Est-ce que c'est aussi majeur que ce que Québec le prétend?
Oui, parce que c'est une première percée significative dans ce grand projet de filière batterie qui est un peu au cœur de la stratégie de développement économique de ce gouvernement. Et Julie, on ne se fera pas de cachette. Aussi, tous les gouvernements était en compétition pour attirer ce type d'usine nouvelle génération. Donc, on peut deviner que l'Ontario était sur les rangs, ainsi que les États-Unis. Mais pour ce faire, évidemment, le Québec a des atouts importants. L'énergie renouvelable, c'est une chose, la main-d'œuvre également. Mais quand même, 150 millions, ça c'est Québec seulement. Ottawa met aussi 150 millions sur la table. Dans le cas de Québec, c'est un prêt qui est consenti. Mais on appelle ça, Julie, un prêt pardonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'après 10 ans, ça se transforme essentiellement en subvention pour 97% du marché. Et Julie, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, et puis Mario aime beaucoup les chiffres et les mathématiques. 200 emplois, 300 millions de fonds publics là, d'Ottawa et de Québec. C'est 1,5 million de dollars d'argent public, des contribuables, pour chaque emploi créé par ce projet-là. 1,5 million.
Mario, c'est vrai qu'il y a plusieurs endroits en Amérique du Nord qui rivalisent géographiquement pour être dans cette chaîne d'approvisionnement. L'administration Biden, Paul en faisait mention. Pourquoi?
Parce que c'est l'avenir.
Être dans la chaîne d'approvisionnement. Ouais.
Je pense que c'est l'avenir de l'industrie automobile. Là. C'est le calcul que tout le monde fait. Tout le monde se dit, mm-hmm. si celui qui s'installe dans ce créneau développe l'économie de demain. Faut voir qu'il y a un historique hein, au Canada depuis des années. L'automobile, c'est l'Ontario. C'est toujours l'Ontario qui a eu la part du lion. Bon, on a eu la GM, la Boisbriand au Québec. Essentiellement, il y a eu une usine qui est fermée depuis longtemps. Et donc là, on se met dans la peau du gouvernement Legault. On se dit, ben là, cette fois-ci, pour la prochaine génération d'automobiles, on veut que le Québec ait sa part. Donc, autant aujourd'hui, l'annonce était extraordinaire, autant quand on la place dans une perspective de comparaison avec l'Ontario, il y a un journaliste qui a posé la question, il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral annonçait 13 milliards, c'est quasiment 80 fois plus d'argent, là. 13 milliards pour une usine de Volkswagen. Donc, le ministre Champagne mm-hmm. s'est défendu en disant, c'est pas la même affaire, faut que Volkswagen investisse 7 milliards. Mm. C'est pas la même affaire, mais François Legault a pas laissé passer. Il a quand même dit, ben, nous, on l'a noté ce qui a été donné à l'Ontario, puis on va se battre pour que le Québec ait sa juste part.
Ah, c'est ça. Surveiller Ford, entre autres choses.
Bon, c'était le conseil général du Parti libéral du Québec en fin de semaine. Évidemment, c'est sain d'avoir des débats au sein d'un parti, mais avez-vous l'impression, Paul, d'abord, que les militants sont actuellement plus divisés que jamais?
Bonne question. Il y a une question qui circule beaucoup chez les libéraux actuels mm-hmm. et surtout les anciens. Mais qu'est le Parti libéral du Québec devenu? La semaine dernière, je participais à un événement, puis il y avait des vieux de la vieille du Parti libéral là, qui ne se retrouvent plus dans ce parti aujourd'hui. Il dit, moi, j'ai entendu de la bouche d'anciens organisateurs libéraux, là, le PLQ est devenu plus canadien que québécois, et moi, ça ne me va pas du tout. Mm. Est-ce que la réunion de la fin de semaine a permis de répondre à quelques-unes de ces inquiétudes? Je suis loin d'être sûr de ça, Julie.
Mario, qu'est-ce qui fonctionnait tant avec Jean Charest qui ne fonctionne plus maintenant au sein du Parti libéral du Québec?
D'abord, Jean Charest avait réussi à, malgré qu'il arrivait d'Ottawa, malgré qu'il était envoyé finalement par Ottawa là, pour sauver le Canada après le référendum de 95, il avait réussi à trouver une touche quand même nationaliste dans le parti, rallier là, des candidats francophones dans les régions. Et sous Philippe Couillard, puis bon, Mme Anglade n'a pas pu rattraper ça, c'est ce qui s'est perdu. Mm-hmm. Ce qui fait qu'en fin de semaine, sur le plancher, on dit le parti est divisé, mais je serais tenté de dire, il est même plus si divisé que ça, c'est qu'il y a comme plus de place pour les voix nationalistes. Les voix nationalistes se sont fait dire, c'est plus ça le Parti libéral, c'est comme si cette idée que le Parti libéral défend le français puis un certain nationaliste, là, c'est le bon vieux temps de Robert Bourassa et compagnie, mais c'est plus ça le Parti libéral aujourd'hui, c'est le parti qui défend les droits et libertés, les droits des minorités, de la minorité anglophone, des communautés culturelles, et c'est un peu ce qui est devenu le Parti libéral. Et là, ils sont pris dans un cercle vicieux parce que tu gagnes des comtés juste dans l'ouest de Montréal, fait que tu deviens un peu le parti de ça, mais avec ça, t'as aucune chance de gagner au Québec, donc là, comment tu mm-hmm. redeviens un parti qui a une offre politique à faire aux francophones dans toutes les autres régions du Québec? Là, il y a une gymnastique qui... En tout cas, ils l'ont pas amorcé en fin de semaine du tout. Est-ce que ce sera peut-être le choix d'un nouveau chef qui va amener ça? Je le sais pas.
4% que les libéraux ont eu en Beauce-Sud, Beauce-Nord, 4% ou 5% à Rimouski, du côté de Saguenay, de Jonquière, ouais. Des comtés qu'ils ont pourtant représentés il n'y a pas si longtemps que ça.
Décès de Michel Côté, nous avons tous été soufflés par cette nouvelle ce matin. Je vous ai posé la question, quel avait été le rôle marquant qu'il avait interprété? Paul, c'est le commandant Piché, entre ciel et terre, pourquoi?
Évidemment, le documentaire que j'ai fait sur Robert Piché, j'étais en mesure de constater à quel point ces deux-là étaient liés. Puis Robert m'a beaucoup parlé de Michel, et puis il était en privé ce qu'il était en public. Donc, un très, très grand, c'est un géant de l'histoire du Québec qui vient de mourir aujourd'hui. Mais pour ça, effectivement, mais sinon, son rôle, entre autres, dans Brou, le oui. pompier de le rôle de pointu qui va marquer un moment d'anthologie dans le théâtre québécois.
Mario, tu avais choisi Gervais, ce père de famille dans Crazy qui n'accepte pas l'homosexualité de son fils.
Ouais, mais oui, c'est l'émotion, c'est Crazy, ouais. C'est la, tu sais, c'est un grand film. C'est pas pour rien que ce film-là, Crazy, a secoué tout le monde, a gagné autant de récompenses. Et quelque part, oui, il y a le scénario, il y a l'histoire, il y a la réalisation, il y a pas de doute, mais il y a le jeu de Michel Côté. Mais tu sais, entre le gars qui a joué ça dans Crazy puis qui a aussi joué dans Brou. Ouais. Ça nous donne une idée de l'amplitude là, de ce que Michel Côté pouvait faire, là, de faire rire, de faire pleuter, de pleurer, de la largeur de son spectre de talent. Un vrai de vrai, puis un gars tellement gentil, tellement affable, tellement simple. Des gens l'ont dit toute la journée. Pas pour rien que les Québécois l'ont aimé autant. Hein.
Mmh. Accessible, un grand qui nous a quittés aujourd'hui. Mario Dumont, Paul Larocque, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour une autre émission demain 15h30. Cube Radio.